Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver hein, comme chaque lundi, 19h-20h30, émission de tous les sports. Hein, on va encore le prouver ce soir avec deux clubs de natation pour le prix d'un. Alors on accueille déjà la section de Paris 13, c'est ça ?
Paris Aquatique.
À Paris Aquatique 13, avec sa présidente Virginie Corrette. J'allais dire toute nouvelle présidente.
Effectivement, toute nouvelle présidente qui a été fraîchement élue depuis un mois maintenant, donc dans l'association depuis de nombreuses années maintenant, mais effectivement élue à la présidence à l'Assemblée Générale de septembre.
Alors je crois savoir que vous montrez l'exemple, vous êtes présente et vous êtes joueuse de water polo.
Tout à fait. En plus d'être bénévole au sein du club sur la partie présidente, j'y mets aussi ma main à la pâte en termes sportifs, puisque je fais partie de l'équipe de water polo féminine du club.
D'accord. Alors moi, j'aime bien connaître un peu les parcours, les itinéraires, comment on en arrive à faire du water polo.
Alors, je pense qu'il y a plein de chemins différents pour arriver au water polo. En l'occurrence, le mien, effectivement, pendant de nombreuses années plus jeune, j'ai fait de la natation course, donc vraiment ce qu'on appelle de la natation au premier sens du terme, en compétition. Et puis, je me suis un peu lassée au fur et à mesure des longueurs de natation, ce qui m'a et j'ai cherché plutôt, tout en restant sur un sport aquatique, puisque c'était l'élément vraiment l'eau qui m'intéressait, à faire un sport qui était aussi un sport collectif. Et finalement, des sports aquatiques collectifs en dehors du water polo, il n'y en a pas forcément énormément beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers ce sport.
D'accord, bon, on va le découvrir ce soir et puis on découvrira aussi les autres 5 disciplines aquatiques de votre club.
Hein. Oui, parce que Paris Aquatique, effectivement, je le représente aujourd'hui en tant que joueuse de water polo, mais en tant que présidente. Et le club ne propose évidemment pas que le water polo, mais bien tous les sports aquatiques qu'on peut retrouver. Donc la natation course, l'eau libre, qui est la natation longue distance, le plongeon, et effectivement il y a peu de sports, de clubs qui proposent cette activité, notamment à Paris, la natation artistique, anciennement appelée natation synchronisée, et le water polo.
Ah oui, il y a tous les éventails. Alors vous êtes accompagné donc de Florian Castagnier, qui est aussi le secrétaire du club. Florian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous aussi, donc poloiste.
Oui.
Et donc dirigeant de club.
Enfin, vous n'avez pas eu de chance, mais vous avez juste récupéré les deux poloïstes
du
bureau.
C'est bien.
Donc
c'est bien.
Vous n'avez que des poloïstes au bureau.
Voilà. Il y a d'autres poloïstes aussi, hein, d'un club ô combien prestigieux. C'est le plus ancien club de Paris, au beau nom des Libellules. On commence avec Margot Barral, qui est joueuse. Bonsoir,
bonsoir.
Margot. Ça va bien ?
Très bien, merci.
Depuis combien de temps, vous, dans le polo ?
Depuis pas si longtemps
dans
que
water polo,
ça, depuis 2 ans à la Libellule et avant ça en universitaire. J'ai fait de la natation pendant longtemps.
Ah, vous aussi.
Voilà, moi aussi, en compétition.
Sport de reconversion. Voilà.
Sport de reconversion, tout à fait.
Très bien. Et puis, ça sent bon la Roumanie, hein, donc avec Radu Minescu. Bonsoir Radu, ça va bien ?
Bonsoir, merci, ça va très bien et vous ?
Hein, poloïste aussi ?
Exactement, poloïste et dans le conseil d'administration du club, responsable matériel. Le polo, moi, à l'inverse de Margot, j'ai fait très peu de natation.
Oui.
En Roumanie, j'ai fait 3 mois, je crois, et ensuite je me suis lancé dans le sport d'équipe.
Et c'est un sport populaire en Roumanie ?
Plus qu'en France.
Ah ouais ? Oui, il y a peut-être pas de mal.
Bon, pas si populaire que, par exemple, en Hongrie, Croatie, Serbie, les pays à côté de la Roumanie.
Très bien, on va vous faire un beau cadeau. Je sais que vous aimez le ballon rond. Je suis content d'accueillir mon ami Eladji ce soir. Ça va, Eladji ?
Ça va, très bien.
Bon, t'es tout seul aujourd'hui pour le point foot. Hein.
Ouais, je suis très.
Qu'est-ce qu'il arrive à notre ami Abou ?
Il a des maux de tête. Marseille, ils ont perdu 3 fois de suite en championnat. Il a des maux de tête, du coup, aujourd'hui, il n'a pas pu être là.
Très bien, ok. Donc, on va naturellement très largement revenir sur l'actu foot du week-end qui était assez calme, mais qui était surtout marqué par le ballon d'or. Je voulais simplement dire que la semaine dernière, on était dans les conditions du direct. On avait une large actu foot. On a reçu un agent de joueur, Julien Girafi. Bon, il y a eu un petit bug. Donc, pendant cette émission, on vous a repassé l'émission de Jacques Vendroux en direct. Mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine dernière en podcast. Ça a été très intéressant, notre ami agent de joueur. Alors, justement, ce ballon d'or, On en parlait, ça y est, c'est fait, c'est pas une surprise. Benzema, donc, cinquième Français donc, à obtenir le Ballon d'Or. Il y a eu Coppa en 58, Platini trois années de suite en 83, 84, 85, Papin en 91, Zidane en 98, et donc Benzema cette année en 2022. C'est logique, c'est mérité, hein, largement.
C'est logique, c'est mérité. Voilà, Zinedine Zidane qui lui remet le trophée. Voilà, rien de mieux. Et... Voilà.
Notre ami roumain, là.
Très, très beau.
Ouais, c'est bien. Beau,
ouais.
Ouais. Hein, bah, c'est un bon joueur, Benzema.
Un très bon joueur. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait l'année dernière avec Real Madrid, l'équipe en général, mais surtout lui, c'est un exploit extraordinaire.
Absolument. Parce que non seulement il a été influent sur le titre, le 14e titre de Ligue des Champions pour le Real, mais aussi sur l'équipe de France quand elle gagne la Ligue des Nations, même si après ça s'est moins bien passé pour l'édition suivante pour l'équipe de France. Mais pour il a été déterminant, surtout. Et puis buteur, passeur. Quoi. Donc ça a été... voilà.
Ouais, non, il a apporté, franchement, avec l'équipe de France, il a beaucoup apporté, avec son équipe, franchement, c'est une saison complète, voilà, ouais, c'est une saison complète, un euro un peu gâché, mais à part ça, Ligue des Nations acquis, plus la Ligue des Champions et plus la Liga, ouais, voilà, c'est une saison très complète, quoi.
Ouais, ouais. Bon, cinquième Français, certains auraient pu l'avoir, comme Thierry Henry en 2003, comme Ribéry, qui a mis un terme officiel à sa carrière, ça y est, c'est fait, en 2013, bon, enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, il s'impose. Alors, je vais vous donner les 10 premiers, le deuxième, c'est Sadio Mané, donc de Liverpool et du Bayern de Munich. Le troisième, c'est De Bruyne.
Grosse surprise quand même.
Oui. Grosse surprise. Parce que c'était pas évident. Hein,
ouais. Et Stéphane aussi nous avait donné le podium. Ah, oui. C'était pas exactement ça.
Donc le troisième, c'était Kevin De Bruyne de Manchester City, qu'on connaît bien. Le quatrième, Robert Lewandowski, Barcelone et Bayern, parce que c'est sur l'ensemble de la saison dans les deux clubs. Et cinquième, Mohamed Salah, Liverpool. Mbappé n'est pas dans le top 5. Hein.
Mbappé n'est pas dans le top 5.
Elle a dit. Il est sixième, Kylian Mbappé, sixième.
J'ai envie de te dire, bon, franchement, après, il n'y a que le premier, on est d'accord. Après, le reste, tout est très discutable.
Oui,
quoi.
Et puis ça reste subjectif.
Voilà,
hein,
voilà ça reste aussi. Voilà. Mané, on le met deuxième parce qu'il a pris la CAN. Il ramène son équipe en Coupe du Monde. Ils ont fait la finale en Champions League.
Voilà,
ils se sont battus jusqu'à la fin en Première Ligue. Voilà, il a été vraiment sur tous les fronts. C'est pour ça que je pense qu'on met Sadio Mané deuxième. Mais Mbappé, en termes d'individualité... Il a été très très fort. Après, je pense que ce qui l'a pénalisé,
le huitième de finale,
c'est ce qui l'a pénalisé. Mais par contre, je n'arrive pas à comprendre comment Vinicius ne termine pas dans le top 5.
Oui,
c'est incroyable. Oui. Voilà, je ne comprends pas.
Vinicius, il est huitième, donc pour le Real de Madrid. Et entre Mbappé et puis Vinicius, il y a Thibaut Courtois qui est donc septième.
Aussi, que je n'arrive pas à comprendre. Thibaut Courtois, c'est un gardien. Mais c'est ça le problème, en fait. Ouais. Le problème, il ne devrait pas s'arrêter là. C'est un gardien, du coup, son poste, il est moins valorisé que les autres. Et tout de suite, mais moi, je vous le dis, s'ils prennent la Ligue des Champions et la Liga, c'est en partie, c'est grâce à Benzema, mais comme autant grâce à Courtois. Parce qu'en finale, Salah aurait pu marquer au moins un doublé facile et on n'aurait pas voulu à Thibaut Courtois. Il a super bien gaulé pendant toute la Liga et toute la Ligue des Champions, même contre Manchester City, contre Chelsea. Il a sorti de très belles parades qui les ont maintenus en vie. Le penalty aussi qu'il a sorti contre, avec Messi. Voilà, parce que s'il y a 2-0 au match aller au Parc des Princes, le match retour, c'est beaucoup plus compliqué. Franchement, excuse-moi, mais Thibaut Courtois, là, je le mets dans le top 3.
Alors, il a été quand même, on a vu, choisi meilleur gardien, élu meilleur ballon d'or des meilleurs gardiens. Hein. Mais enfin, bon, voilà, c'est...
Voilà, ça c'est.
Ouais. On préfère quand même privilégier le football offensif que le football défensif, malheureusement.
Ça va toujours de pareil. Hein. Ouais. Malheureusement, ça va toujours de pareil.
Oui, oui, oui.
Pour les gardiens, ils vont avoir toujours un peu l'ombre.
Il n'y a que Yachine qui a été donc ballon d'or.
Il y a très très longtemps, comme le défenseur aussi, c'est le seul.
Cannavaro.
Oui.
Voilà, en
2006. Un peu l'époque moderne, mais.
Ouais.
Malheureusement pour
les gardiens. C'est pour ça qu'ils ont fait un ballon d'or pour les gardiens, comme ça. On vous donne le ballon d'or pour le gardien et restez.
Quelque part, ouais.
Ouais. C'est
alors, Luka Modric termine 9e du Real Madrid et puis Alan, donc 10e voilà, de Dortmund et Manchester City. Alors, pour les autres distinctions, on va quand même rappeler que chez les féminines, c'est Alexia Putellas de Barcelone qui donc, obtient le ballon d'or féminin devant Bed Med d'Arsenal.
Indiscutablement.
Ouais, troisième, Sam Kern de Chelsea. Et la première française, c'est Wendy Renard qui est donc huitième de Lyon.
Franchement, Putellas, c'est amplement mérité en vue de la saison qu'elle a fait avec le FC Barcelone. Ils ont fait une très belle saison, Ligue des Champions comme en Liga, etc. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà.
Alors, le meilleur jeune, c'est le trophée Raymond Kopa. C'est Gary de Barcelone qui s'impose devant Camavinga, du Real Madrid deuxième, et troisième, Moussala Missiaga du Bayern de Munich. Tu n'étais pas d'accord avec ce choix dernière de Gary.
Du tout. Et aujourd'hui encore, je le suis encore moins. Ouais. Du tout. Ouais. Ouais, bah, franchement, c'est pas mérité. Il n'a rien gagné. Gavi, il n'a rien gagné.
Oui.
Non, mais de toute façon, en fait, même si ce n'est pas Camavinga, il y a des joueurs qui ont été...
Il s'est un peu éteint quand même dans la saison.
Il s'est éteint dans la saison, mais il faut savoir aussi qu'ils n'ont rien gagné. Le FC Barcelone n'ont rien gagné. Rien. Ils n'ont rien gagné. Il y a Camavinga qui a beaucoup participé. Pourtant, il n'a pas été titulaire à tous les matchs, mais il a beaucoup participé à la victoire du Real en Champions League et en Liga. Il y a eu Jude Bellingham avec Dortmund. Jude Bellingham, tu vois, avec Dortmund, il est très très fort, mais ils n'ont rien gagné. C'est pour ça que j'aurais pas pu le donner à Jude Bellingham. Mais il y a Jamal Musiala aussi.
Je
le mets devant. Je mets Musiala devant. Jude Bellingham devant. En fait, je mets les trois devant Gavi. Je comprends pas comment ça se fait qu'il lui donne le trophée Golden Boy et le trophée. Franchement, c'est incompréhensible.
C'est le meilleur jeune, donc le trophée Copa et Golden Boy. Alors, le trophée Yachine, meilleur gardien, justement. Thibaut Courtois, donc, qui s'impose du Real Madrid devant Alisson Becker de Liverpool, deuxième. Troisième, Ederson, le gardien de Manchester City. Maignan, il est le français, est cinquième. Mick Maignan de l'AC Milan. Et Hugo Lloris, dixième pour Tottenham. Voilà.
Je pense que...
Donc, Thibaut Courtois, il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, il y a Alisson aussi, il a fait une très belle saison. Et Ederson, mais bon, ça reste quand même en dessous. Il n'y a pas niveau gardien, il n'y a rien à dire. Mike Maignan, cinquième, il a été respecté.
Voilà. Alors, le prix Gerd Müller, bon, bah, ça récompense Robert Lewandowski, hein, Bayern de Munich, Barcelone, pour avoir fait une énorme saison comme buteur. Hein, je crois, voilà, c'est aussi un petit peu des prix de compensation.
C'est toujours ça, c'est toujours des petits prix de compensation, comme ça, voilà, tiens, ne nous crie pas trop dans les oreilles, voilà.
Voilà.
Tout le monde est content.
Le prix Socrates, alors ça, c'est le prix du sort de fair play, de l'action
humanitaire. Je me demande ce qu'ils vont nous inventer encore.
C'est le frère de Rai. Donc, c'est Sadio Mané, donc de Liverpool et du Bayern, qui a été récompensé. Et enfin, club de l'année, c'est Manchester City. Voilà.
Incompréhensible.
Oui, alors, Sadio Mané, c'est le Real.
Avec tout ce que Real a fait, effectivement.
Bah, ouais, comment c'est pas le Real de Madrid? En fait, il n'y a même pas besoin de voter. Ouais. C'est simple, il n'y a même pas besoin de voter, on a vu. En plus, ils sont tombés directement l'un contre l'autre. On l'a vu, Real Madrid, ils ont battu Manchester City.
Niveau mental, en plus,
Niveau mental, on l'a vu, il n'y a pas photo. Ouais. Comment tu peux... je comprends pas. Incompréhensible. Voilà.
En tout cas, est-ce que le Ballon d'Or, il prend pas trop d'importance aujourd'hui? Parce qu'on va rappeler que le Ballon d'Or était quand même ouvert aux Européens jusqu'en 1994. Et à partir de 1995, il s'est ouvert à l'ensemble du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, ça prend peut-être pas un peu trop d'importance? Parce que, bon, il y a des choix parfois qui sont comme cette année, il n'y a rien à dire. Il y a eu parfois des années où c'était un petit peu plus... problématique dans le choix.
Déjà, on ne comprend pas. Il y a deux ans, ils ont annulé le Ballon d'Or.
Oui.
Or que
comme beaucoup de manifestations.
Lewandowski le méritait amplement. Il avait tout gagné.
Il avait tout gagné. Une compensation cette année.
Mais, tu vois, c'est voilà, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et la saison d'avant, il était censé le prendre aussi. Ils ne lui ont pas donné. Ils l'ont donné à Lionel Messi. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Ouais. Et là, franchement, ça reste ouvert à tout le monde, entre guillemets, mais c'est pas ouvert à tout le monde. Ils choisissent.
Que ce sont les journalistes qui revotent aujourd'hui, alors qu'à un moment, ça avait été les gens du métier qui avaient voté.
Là, c'est les entraîneurs aussi, non?
Il y avait les capitaines. Les capitaines, mais il y a aussi les journalistes qui revotent maintenant. Qu'avant, c'était les gens du métier, donc parfois, il y avait des petites disproportions dans le jugement. Des petites nuances dans les jugements.
Moi, je pense que ça va être de plus en plus compliqué parce que les jeunes arrivent. Pour moi, à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de trentenaire, par exemple, qui va gagner le Ballon d'Or. Peut-être Neymar, peut-être s'il fait une saison extraordinaire.
C'est vrai
qu'il
y a une génération qui risque de partir. Là, Ronaldo, Messi, tout ça, ça risque de partir.
Mais là, les jeunes, comment ils arrivent? Vous voyez, par exemple, Vinicius, il n'est pas venu à la remise du trophée. Mais pourquoi? Pourtant, c'est son coéquipier Karim Benzema qui l'adore. Il n'est pas venu, mais pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas respecté. Ils le mettent 8e, ils ne le respectent pas. Du coup, les jeunes, maintenant, même Mbappé, il n'est pas content. Il vient quand même parce qu'il y a Karim Benzema, etc. Mais il n'était pas content, il l'a fait savoir. Oui. Voilà. Maintenant, les jeunes, ils arrivent, ils ne sont pas très contents des résultats, de comment ça se déroule, etc. Si franchement, France Football n'arrive pas à changer leur manière de faire sur les votes, etc., je pense que les jeunes, ils vont commencer à boycotter le Ballon d'Or petit à petit. En tout cas, ça va arriver.
En tout cas, on verra la saison prochaine, mais bien mérité, en tout cas, pour Benzema, et puis on espère que ça va lui permettre de faire une belle Coupe du Monde.
On espère, parce qu'en championnat, ouais.
La sélection de l'équipe de France pour le mondial, c'est le 9 novembre. C'est ce qu'a dit Didier Deschamps hier. Bon, il aura beaucoup de difficultés dans le choix avec les blessés, mais enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Tiens, les féminines, on y reste, puisque c'était une semaine de Coupe d'Europe, où donc ça ne s'est pas très bien passé pour nos deux équipes phares féminines, puisque ouais. Chelsea a gagné à Paris 1-0 et Arsenal est allé gagner à Lyon 5-1. Que se passe-t-il alors pour nos féminines, là, depuis pour l'entame de cette compétition?
Franchement, là, au
5-1,
début.
5-1, ça fait beaucoup quand même. Hein.
5-1, voilà.
Et à domicile en plus.
À domicile en plus. Franchement, ouais. Ça a été une grosse déroute. Ils n'étaient pas prêts, je pense. Même moi, j'étais pas prêt. J'ai vu ça. Voilà. Franchement, c'est inexplicable. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Après, ça arrive, quoi.
Oui,
on peut
sûr.
Vraiment dire ça arrive parce que ce n'est pas de leur habitude. Normalement, tu vois un score 5-1, tu te dis, Lyon, ils vont mettre 5-1 de l'autre côté. Mais voilà, là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, ils n'étaient pas en bonne forme.
En tout cas, bon, c'était les premières journées de phase de poule. Hein, naturellement, il faudra attendre les semaines suivantes pour espérer quand même que le PSG et Lyon, et ça devrait être le cas, puissent poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. Puis tiens, pour la Coupe du Monde 2023 chez les femmes, eh bien, le Brésil et la Jamaïque seront dans le groupe de l'équipe de France avec une quatrième équipe qui sortira des barrages. Ça vous intéresse le foot, non? Pas trop?
Alors, ça m'intéresse, pas énormément, dans le sens où effectivement je suis pas quelqu'un qui suit
vous pensez que ça écrase peut-être trop votre sport? Non, probablement pas.
Alors que ça écrase notre sport, c'est-à-dire qu'effectivement le waterpolo est un sport qui est pas forcément très reconnu. En revanche, je pense que c'est important parce que c'est quelque chose qui est, c'est un sport qui est extrêmement populaire et qui est extrêmement reconnu et que les gens ont envie de regarder. Donc ça ne me dérange absolument pas effectivement qu'on en parle et que les matchs soient retransmis à la télévision, bien au contraire. La seule chose que je déplore, c'est que potentiellement les autres sports ne le soient pas.
Vous allez suivre la Coupe du Monde, non?
Je vais suivre la Coupe du Monde, certainement. Mais ça fait partie des événements, effectivement. Coupe du Monde, Coupe d'Europe, enfin, Euro plutôt que Coupe d'Europe, c'est effectivement l'attrait, on va dire, de l'équipe de France, souvent qui fait plus fédérer les populations qui potentiellement ne s'intéressent pas au départ au foot.
Bon, Radou, lui, va revenir pendant nos émissions sur le Mondial, hein. Il aura l'œil du Roumain qui, malheureusement, n'est pas en Coupe du Monde, mais c'est
pas
grave.
C'est pas grave. Hein. J'aime le sport. Hein,
Vous avez un favori?
La France.
Oui, mais ça, c'est bien.
Subjectivement,
malgré sa cascade de blessures, hein, parce que Kanté, Varane, on en parlait un peu avec LG, puis peut-être d'autres.
C'est confirmé que.
Varane, je sais pas, mais c'est mal engagé.
Ils disent qu'en tout cas, du moins, le premier match de sélection, il sera pas là. Okay. Et Didier Deschamps tenait un discours, parce que je tiens à préciser, Didier Deschamps tenait un discours que chaque joueur qui ne sera pas à 100% dès le premier match ne sera pas convoqué.
Hein. Mais ça me paraît logique, on peut pas se permettre de faire une.
D'accord, ça me paraît logique aussi, mais je pense.
Un joueur.
Mais j'y crois pas. Oui, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas un instant. J'y crois pas un instant. Voilà, plein de fois, Mbappé, on dit il est blessé ou Benzema, il est blessé. Il le prend dans le groupe pour ensuite appeler quelqu'un le remplacer. Voilà, je pense qu'il va
après,
le prendre.
Après, il y a quelque chose aussi que les entraîneurs, Ancelotti, il l'a dit il y a une semaine ou deux, il demande à ses joueurs s'ils sont prêts. Eux, ils ont envie de jouer, donc ils vont dire qu'ils sont prêts, alors qu'ils pourraient
ne pas l'être.
Ne pas l'être, effectivement. Mais ils veulent, ils ont tellement envie de jouer qu'ils.
Ils ont tellement envie de jouer une Coupe du Monde. Et c'est très mal tombé, franchement, là, ils l'ont fait.
Bien sûr. Bah oui.
Voilà, en hiver.
Allez, on parle du championnat, 12e journée donc de championnat. Bon, le Paris Saint-Germain qui creuse maintenant un peu plus le trou. Victoire à Ajaccio assez nette 3-0. Victoire aussi de Lyon. Tiens, première victoire de Laurent Blanc. Ça fera plaisir à notre ami agent de joueur qui était avec nous la semaine dernière. Hein. Donc victoire de Lyon à Montpellier 2-1. Lens qui bat Marseille 1-0. Donc ça explique la déprime de notre ami Abou. Hein.
C'est ça, big up à Abou.
Voilà. 3 et Lorient 2-2. Rennes qui va gagner Angers 2-1. Il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur. Puis un match, c'est peut-être le match de l'année. C'est Lille qui bat Monaco 4-3. Match de l'année en Ligue 1. Super match de foot.
Super match de foot.
Ouais.
Franchement, j'ai regardé hier, je me suis régalé. Il y a eu des buts, il y a eu des actions, il y a eu du beau jeu. Franchement, je me suis régalé. Même le match de Lens contre Marseille, il était pas mal. Il était pas mal du tout. Il manquait juste des buts, mais il était pas mal. Mais à plusieurs reprises, Marseille auront pu. Ils auront pu marquer, etc.
Ouais.
Mais,
c'est une troisième défaite consécutive. Là,
ça tu va dors, mal, je pense que tu dors, n'a pas fait les bons choix. Surtout là, il a fait sortir les trois attaquants d'un coup pour faire rentrer Bamba Dieng, etc., etc. C'est des joueurs qui ne jouent pas souvent. Là, ils rentrent dans un match comme ça à haute intensité. C'est dur directement de suivre, etc. Du coup, voilà.
Alors, le Paris Saint-Germain, j'ai dit, creuse maintenant un peu plus le trou. 32 points pour le PSG, devant Lens, qui est quand même deuxième, et Lorient avec 27 points. Rennes, quatrième, 24 points. Cinquième, Marseille, 23 points. Et puis, en bas de tableau, c'est aussi très, très serré. Hein. Strasbourg, 16e, avec Brest et Auxerre, 9 points. Et le 19e, c'est Ajaccio et Angers, qui est maintenant lanterne rouge, avec 8 points.
C'est ça. Ça voilà. va se battre jusqu'à la fin de la saison.
Ouais, absolument. Ouais, allez, la Ligue 2 maintenant, 13e journée, tout en sachant que la Ligue 2 marquera une pause la semaine prochaine, puisque c'est un tour de Coupe de France. Hein. Donc, victoire de Saint-Étienne, enfin. Les Verts qui ont gagné Amiens 1-0. Mmh. Victoire de Bordeaux, qui est toujours en tête de ce championnat de Ligue 2, devant Annecy 1-0. Sochaux et Quevilly-Rouen 2-2. Victoire de Niort devant Dijon 2-1. Et le Paris FC, donc accroché à domicile 0-0 par Laval. Mmh. Ce soir, il y a Le Havre-Metz à 20h45. Pour l'instant, donc Bordeaux en tête, 27 points. Sochaux deuxième, 24. Troisième, Le Havre-Amiens, 23. Cinquième, Grenoble et Guingamp, 22. Et en bas de tableau, on voit que Dijon est 18e avec 13 points. Et puis ensuite...
Non, les 18e sont...
Pardon, c'est Saint-Étienne. Je me trompe, pardon. Ouais, ouais. Voilà, 7e Caen, 21 points. 15e Dijon, 13 points. 14e Annecy-Rodez, 12 points. Et 18e Saint-Étienne, Niort et Nîmes, 11 points. Voilà, je me trompais de ligne.
C'est ouais. ça.
Donc, bon, Saint-Étienne, ils peuvent s'en tirer.
Ouais, Saint-Étienne, je pense qu'ils vont, ils vont au moins obtenir le maintien parce que ça va. Faut rappeler quand même, ils sont partis avec 3 points.
Oui, 3 points, mais moins. Bon... Il n'y a pas beaucoup d'écart.
Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais
même s'il n'y en a que 4 qui descendent
oui,
cette
mais,
année.
Mais ces 3 points-là, tu vois, là, ça, là ils sont à 11, ils remontent à 14, ils sont 14e. Mm-hmm. 14e, 18e, ça change quand même. Tu vois, du coup, c'est 3 points. Mais je pense qu'ils vont réussir à se maintenir. Et Bordeaux, pour eux, c'est bien parti la remontée en Ligue 1. C'est bien parti pour l'instant.
Il semble vouloir partir faire aussi. Comme le PSG en Ligue 1, un cavalier seul. Et le Paris FC, bah, ils sont 10e avec Pau, mi-tabo, avec 17 points. Je pense que malheureusement, ça va être comme ça tout au long de la saison pour le Paris FC.
Non, Paris FC, ça va être le maintien cette saison.
Je pense, ouais, qu'ils vont jouer le ventre mou. Hein.
Ouais,
malheureusement.
Ça va être très compliqué d'aller chercher autre chose.
Allez, on parle de National, 10e journée. Bah, on est content, Paris Atlético a renoué avec la victoire 2-0. Il y a eu un effet, donc Vincent Bordeaux, qui est nouvel entraîneur.
Nouvel entraîneur, 2 buts marqués.
Ouais, ouais.
Sur à peu près 10 matchs, ils en avaient mis 5, 6. Mm-hmm. Voilà, là, ils arrivent, ils en mettent 2 en 1 match.
Bah, Abou qui avait suivi
de la progression.
Donc les matchs, vous avez dit qu'il y avait un problème sur le secteur offensif, apparemment. L'arrivée du nouvel entraîneur a peut-être
changé
le truc, problème. Quoi.
Voilà, j'espère et j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, là, ça leur donne. Un petit peu d'air, mais pas vraiment, parce qu'ils sont toujours dans la zone rouge.
Ouais,
mais bon, ils restent quand même à 3 points de la zone rouge, 2 points même, j'ai envie de dire.
Parce qu'ils sont 15e avec le Puy, hein, avec 10 points. Ouais. Ouais, les 17e, c'est Borgo, 9 points. Et les 18e, lâché, donc Saint-Brieuc, 4 points. Ouais. Alors que c'est Concarneau qui mène le bal avec 21 points. Devant donc Dunkerque, 2e, 18. Et 3e, Versailles, Châteauroux, Martigues et Nancy, 15 points. À noter que Versailles joue à 18h30 actuellement contre Cholet et que Orléans reçoit le Restart à 18h30. Le Restart qui est 8e avec Cholet, justement, et se donne 13 points. Voilà.
Bah, le Red Star qui sont en train de jouer carrément, et là c'est la mi-temps. Ils ont déjà pris un carton rouge à la 44e minute, du coup. Ça va être très compliqué quand ils vont revenir. Ouais. Mais voilà, le match est engagé et voilà, ils sont en train de faire un match.
Bon, bah voilà pour les résultats foot. Alors, juste un petit mot quand même pour les clubs du coin. Vous aimez aussi le basket et le volley? Vous suivez les clubs du basket et volley du Paris 13 là? Non,
je vais vous avouer, je suis totalement inculte en fait.
Il y a que le water polo quoi.
Même pas en fait. Je pense que pour moi le sport c'est quelque chose de très égoïste.
Ah bon?
Au final, donc en fait je suis rien, c'est ridicule.
Ça peut être. Ouais, non mais ça peut. Vous suivez les autres clubs résidents du 13 comme le Paris Basketball ou
Non, bah déjà je suis pas dans le 13. Foot.
Oui, d'accord. Non,
bon, mais en général, donc ouais, je suis le foot, water polo, tennis.
Le haut niveau, hein, le Paris Basketball, hein, c'est le voilà.
De loin.
Voilà.
Enfin,
très
je
bien.
Suis de loin.
Eh ben justement, ils ont eux aussi gagné pour la première fois de la saison. Ils sont allés gagner donc à Pau Lac Orthez. Orthez, bah, battu à domicile 74-79 par le Paris Basketball. Il a fallu attendre la 6e journée pour que donc Paris puisse remporter sa première victoire. Et la semaine dernière, ils avaient été battus de pas grand-chose contre Monaco dans ce match sur Roland-Garros, hein, dont nous parlaient Abou et Valentin. Donc comme quoi, il y a peut-être eu un petit déclic. Hein. C'est pas passé bien loin face à cette équipe phare du championnat français. Et là, cette fois-ci, bah, voilà. Donc ils ont renoué enfin avec le succès. Ça peut leur donner une petite bouffée d'oxygène. À noter que Boulogne-le-Valois s'est largement imposé devant Blois, donc 113-88, et que Dijon a battu Nanterre 79-71. Donc pour l'instant, Boulogne-le-Valois, deuxième à égalité avec Le Mans et Cholet, 80% de points. Dixième, Nanterre, Limoges, Gravine, Dunkerque avec 50%. 16e, Paris Basket et Strasbourg, 16,7. Et 18e, Le Portel, 0 points. Et puis en volley aussi, il y a une bonne nouvelle. Victoire aussi du Paris Volley qui est allé gagner c'était presque un derby, au Plessis-Robinson 3-1. Les volleyeurs parisiens sont 7e à égalité avec Tourcoing 6 points, alors que ferme la marche donc Poitiers, Montpellier et le Plessis-Robinson avec 3 points. Ça s'est pas trop mal passé pour nos clubs de l'arrondissement par rapport à la semaine dernière. Hein.
Ouais, ça va,
le basket qui gagne, le volley qui gagne, le Paris Atlético qui renoue avec la victoire, c'est bien.
J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, surtout.
Voilà. Très bien. Eh ben merci donc Eladji, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Yes. C'est une semaine de Coupe d'Europe là.
Il y a une semaine de Coupe d'Europe. J'aurais aimé revenir un peu sur les prochains matchs.
Bah donne justement, voilà, c'est bien. C'est bien. Donne tes prochains matchs qui arrivent. C'est la transition comme ça.
C'est la transition. Bah il y a pas mal de matchs. FC Séville avec Sampaoli, ça commence à revenir quand même assez bien.
Alors écoutez bien les pronos de notre ami Eladji, parce qu'il donne des pronostics aussi. Hein, donc voilà, et il fait gagner de l'argent. Donc allez-y.
Il y a un enjeu parce que.
Il y a des enjeux pour le Séville. Bah là, FC Séville, bon, il n'y a pas une très grosse cote et franchement, je ne prendrais pas le risque. Moi, j'irais plus sur Benfica-Juventus. Ça s'annonce un match assez chaud. Mais je verrais bien les deux équipes marquées. Mais je pense que la Juventus peuvent créer la surprise.
Oui, c'est le match de la dernière chance pour la Juve.
C'est le match je pense qu'ils peuvent tenir au moins un petit match nul, la Juve, à Benfica, même si c'est très compliqué là-bas. Voilà, après, il y a Dortmund-Manchester City. Attention à Dortmund, voilà, qui l'ont posé beaucoup de problèmes au match aller, on l'a vu, qui menait et à la fin, à Londres, vraiment, il sort. Et le PSG qui vont jouer contre Haïfa, je pense que le PSG vont s'imposer à domicile.
Assez largement, on peut le penser. Même si
le match aller aussi, j'y pense. Le match aller aussi, je pensais ça, mais en vue du match, ils ont gagné 3-1. Ouais. Franchement, c'était un match chaud. Quoi.
Même si notre ami agent joueur de la semaine dernière disait beaucoup de bien de l'équipe d'Haïfa. Bien sûr.
Que c'est une équipe, on l'a vu, ils ont battu la Juventus. C'est une équipe qu'on n'attend pas du tout. C'est la première fois qu'ils arrivent ici. Ils voient tout ça comme un rêve. D'habitude, ils regardent tous ces idoles à la télé. Maintenant, ils jouent contre eux, Lionel Messi, Mbappé, Neymar, etc. Et franchement, ils proposent du beau jeu et ils arrivent à leur tenir tête. Du coup, bravo à eux, quoi. Voilà, et pour mercredi, on va retrouver notre équipe phare.
Oui. Alors, ils vont gagner ou pas?
Ils vont se faire tabasser Marseille contre Francfort. D'accord. Ils vont se faire tabasser Francfort. Ouais.
Parce que ça allait mieux à domicile.
Ça allait un peu mieux. C'était contre le Sporting. Ouais. Deux matchs, Sporting ont pris un rouge au match aller et deux rouges au match retour. Même si Marseille ont fait de très belles perfs. Voilà, maintenant, comme on dit, le naturel revient au galop. Et là, ça revient au galop. Du coup, ils commencent à perdre et là ils vont aller à Francfort. Je pense qu'ils vont sceller leur avenir là-bas avec une bonne défaite à Francfort. D'accord. En tout cas, du moins, je les vois pas s'imposer là-bas.
Ça c'est pour la Ligue des Champions.
C'est pour la Ligue des Champions
et la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Comment tu vois les choses
avec les clubs français avec les clubs français en Ligue Europa?
C'est un petit peu Rennes est déjà assuré de jouer les 16e.
Oui, il y a Nantes-Karabakh. Ouais. On a Nantes-Karabakh. Bon.
C'est mal engagé pour les Nantais. Hein.
C'est mal engagé, mais dernièrement, en tout cas, de ce qu'on a vu, par exemple, à Nice hier, ils ont joué à Nice, ils ont fait un très beau match. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Essayer d'aller au moins arracher le match nul. Hein. C'est difficile de jouer sur les deux tableaux. En tout cas, avec l'effectif qu'ils ont, c'est difficile. Du coup, voilà. Fenerbahçe, je pense qu'ils vont battre le Rennes parce que Fenerbahçe à domicile, c'est très très fort. Et Rennes, ils sont pratiquement déjà qualifiés. Du coup, je pense que Bon, après Nice, ils jouent à domicile contre Partizan Belgrade. Partizan Belgrade, on a vu, c'est une bonne équipe. Match aller, Nice avait gagné. Ils avaient fait match nul, ils avaient fait 1-1 au match aller. Et là, le match retour, je pense que Nice peuvent gagner à domicile. Mais bon, Nice aussi, ils n'étaient pas en très belle forme contre Nantes. Ils ont égalisé à la 96e minute. Du coup, j'espère pour eux qu'ils feront le taf, quoi. Mais ça risque d'être encore très difficile.
D'accord. Et Monaco, ils peuvent aussi s'en tirer, nos amis monégasques, et puis se qualifier. Bon, il y a des résultats
Ferencvaros.
Ils sont leaders de leur poule.
Ils sont leaders de la poule. Et Ferencvaros, au match aller, je l'avais donné. Ils avaient une cote à 7 contre Monaco. À Monaco, j'ai dit que Ferencvaros allait gagner. Et ce jour-là, je me suis régalé. Il y avait une cote à 7 et quelques. Et franchement, parce que Monaco, je les voyais arriver. Et là, hier, on a bien vu. Contre Lille, ils ont réussi à prendre l'avantage dans un superbe match. Mais ils n'ont pas réussi à s'imposer. Ils ont perdu. Là, ils vont à Ferencvaros.
Ils sont pas fiables sur les paris. Hein. C'est comme Arsenal il y a quelques années. Hein. Tu ne pouvais pas jouer sur Arsenal parce que chaque fois, tu faisais une surprise. C'est pas le cas aujourd'hui pour Arsenal. Arsenal, ils assurent en Premier League. En Première Ligue, pour l'instant.
Sauf hier. Ils ont calé. Ouais. Mais c'était prévisible. Moi, en tout cas, je l'avais vu contre Southampton. Ouais. Ils avaient trop enchaîné. Et franchement, on les voyait à chaque fois, ils s'imposaient sur 1-0, 1-0. Le dernier match, il y avait eu un penalty pour l'autre équipe qui ont loupé le penalty, donc le but d'égalisateur. Ils sont imposés avec une petite marge et ça continue comme ça. Voilà. Du coup, voilà. Et on se reverra la semaine prochaine pour le reste.
Donc vous avez bien noté les pronos. Hein, puis on se revoit la semaine prochaine, comme notre ami Stéphane, donc, qui a accordé un petit week-end de repos. Il n'y a pas ce rubrique coup de cœur, coup de gueule. Donc on envoie la pause musicale avec Pop Smoke, Dior. Et puis on se retrouve ensuite pour parler water polo et natation, entre autres.
Roll another one. Sit up, never like you know it's special pack it with the automatics. We gon' send them to heaven. Wait. Hey. Woo!
Oh, you feeling sturdy,
you feeling sturdy, man. Shake it. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I When I walk in the spot, 30 on me. Buy at the club, niggas know that I'm paid. Bitch, I'm a thot. Get me lit, I can't fuck with these niggas, cause niggas is gay. All in my page, sucking dick. All in my comments and screaming my name while I'm in the club. Throwing them hundreds and fifties and ones and ones. Pop smoke, they know I'm wildin'. If I'm on the island, I'm snatching the sale. Brody got locked, denied his bail. Until he free, I'm raising hell. Tell my shooters, call me FaceTime. For all the times we had to FaceTime. Nice to do a state time. If you need the glizzy, you can take mine. Please don't come up to mine. You know I'm like that. I'll make a movie like TNT. Black 30 on me as you really want it. I bet I air it like B&B. Now I'm Blue Island in my section. And I keep that 38 for the weapon. Remember when I came home for correction? All the bad bitches in my direction. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I
Voilà, alors après donc le ballon rond, on va plonger maintenant dans les bassins de natation et de water polo, donc avec les deux clubs présents, donc, et on les remercie à dans nos studios ce soir. Alors à tour de rôle, je vais d'abord vous demander comment s'est effectuée la rentrée dans votre club, comment s'est effectuée cette rentrée au niveau des adhérents, des licenciés et des activités.
Alors pour Paris Aquatique, on a une rentrée qui s'est passée plutôt très bien, dans le sens où on a énormément de renouvellement d'adhésion. Oui. Je pense qu'il y a eu quelques années qui ont été un peu compliquées, avec, notamment sur les piscines, puisque les piscines et tous les sports aquatiques ont fait partie des sports qui, pendant le Covid, ont été effectivement complètement interrompus, puisque dans un environnement fermé et sans possibilité de s'entraîner à l'extérieur. Donc l'année dernière, déjà, on avait eu effectivement beaucoup de renouvellement et de gens qui étaient revenu au sport avec cette volonté de pouvoir reprendre une activité sportive, et ça s'est vraiment conforté cette année. Donc on est aujourd'hui, alors Paris Aquatique est un très gros club sur plein de sections différentes, oui. Donc on a des histoires qui sont un peu différentes, oui, suivant les sections.
Vous êtes combien à l'heure actuelle là aujourd'hui, le 24 octobre?
Alors à l'instant T, je pense que c'est plutôt même le secrétaire qui pourra vous dire, qui parlera beaucoup mieux de chiffres que moi.
Oui, je suis le monsieur chiffre à chaque fois. C'est moi qui fais les inscriptions, c'est moi qui les chiffres, c'est moi qui les stats. Aujourd'hui, on est 501.
Ah oui.
Et on espère être plus de 550 pour la fin de l'année.
Oui, donc ça veut dire qu'on peut encore venir vous rejoindre.
Ah oui, toujours. En fait, on peut nous rejoindre tout au long de l'année. On a bien sûr une bonne grosse base de renouvellement avec 60-70% de renouvellement tous les ans. Donc on a 70% de nos adhérents qui sont des anciens qui restent.
Alors on va rappeler, parce qu'on en reparlait hors antenne, il n'y a pas des moins de 18 ans, c'est ça, hein?
Alors on a
il
pas
faut
de
quand même le préciser, oui, aux auditeurs, auditrices qui voudraient donc le...
On n'a que des adultes, voilà. Effectivement, ouais. Sur les 5 sports, on peut déroger pour 3-4 semaines, 3-4 mois pour des petits 17 ans qui arrivent sur 18.
Alors... Quelle est la répartition entre la natation, la natation synchro, le water polo, le plongeon, grosso modo? C'est la natation qui attire le plus de monde, non?
Le plus complexe, pour vous donner les chiffres à peu près de l'an dernier, donc l'an dernier on était quand même 585, qui est notre plus gros record depuis la création de Paris Aquatique, il y a 31 ans désormais. La problématique surtout sur nos 5 sports, donc qui sont natation course, eau libre, plongeon, natation synchronisée, aussi natation artistique, et le water polo, c'est surtout que water polo, natation synchronisée et plongeon sont des sports qui requièrent beaucoup d'espace et des équipements très particuliers, qui font que on est obligé d'avoir assez peu d'adhérents. Donc, par exemple, en water polo, on est limité à 90. En plongeon, on est entre 50.
Mal, c'est bien,
c'est déjà pas mal. On peut donc, on a 4 équipes à l'heure actuelle. Une équipe qui est en régional 2, seulement masculine. Une équipe en régional féminine. Et 2 équipes maîtres, donc, qui sont plus pour le loisir, qui sont totalement mixtes et qui jouent sur toute l'île de France au travers de 2 championnats. Avec plein d'autres équipes, dont Libellule, certains jours.
Bien sûr. Vous connaissez, on va en parler tout à l'heure.
Donc le water polo, on est 90 au moins. Le plongeon, on est entre 50 et 60.
Ouais, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal, sachant
que... C'est vrai que faire du plongeon, c'est pas évident. Un jeune, quelqu'un qui voudrait faire, un ado, ou moins ado, qui voudrait faire du plongeon, c'est compliqué quand même de trouver un club spécialisé dans cette discipline.
Au-delà d'être spécialisé dans cette discipline, ce qui est sûr, c'est qu'il y a très peu d'offres sur Paris.
Et oui.
Donc, il y a très peu de clubs qui représentent le plongeon. D'ailleurs, on est le seul club parisien qui propose cette activité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a beaucoup de gens qui sont intégrés dans le club, qui sont aussi très bénévoles et qui aident beaucoup au niveau de la FFN sur la partie plongeon, parce qu'on est assez reconnus pour ça. Et la difficulté, effectivement, comme au water polo, c'est l'équipement, c'est les bassins où il faut qu'ils soient équipés de cages. Sur le plongeon, la particularité, c'est qu'il faut une fosse à plongeon. Et généralement, sur les fosses, les piscines qui possèdent des fosses à plongeon, déjà, il y en a très peu sur Paris. Et en plus, il y a une limitation à 17 ou 19 personnes par créneau à chaque fois. Donc, on est obligé soit de multiplier les créneaux, soit de limiter le nombre de personnes.
Et c'est ce qui explique que vous êtes sur diverses piscines un peu partout sur Paris.
Oui, on a... 18 ou 19 piscines, je crois, pas dans tous les arrondissements, parce que on peut pas avoir dans tous les arrondissements.
Alors chacun est spécialisé, c'est-à-dire que si on fait du water polo, on va à telle piscine, si on fait du plongeon, on va à telle piscine.
Même pas.
Raté. Ça doit être compliqué alors.
Non, par exemple, rien qu'en water polo, on a jusqu'à 4 entraînements par semaine et on est dans 4 piscines différentes.
Pour gérer ça, ça doit pas être facile.
Ouais. Oh bah, vous savez, dans le, au niveau de l'association, on est 15 dans le conseil d'administration, donc on est nombreux à s'en occuper. 15 dans le conseil d'administration, jusqu'à une trentaine de bénévoles aussi autour pour tout organiser.
Mais ça veut dire que chaque semaine, il faut noter l'endroit où on va aller s'entraider?
Non, on est plus gentil que ça. Bah, on prévoit quand même un créneau, enfin, on prévoit les créneaux qui sont organisés sur toute l'année, sauf pour les vacances.
Oui.
Comme aujourd'hui.
Bien sûr. Alors ensuite, donc, on a dit. En eau vive, par exemple, en eau libre, vous n'allez pas nager dans la Seine, quand même.
Alors, non. Oui, donc c'est en eau libre, on a encore la possibilité d'avoir beaucoup de nageurs. Alors, pour savoir, l'eau libre, c'est normalement toutes les pratiques de la natation en extérieur, sur longue distance. Donc, ça peut être dans des lacs, dans des rivières, dans des... dire dans des mares, mais non, pardon.
Alors, quand on habite Paris, comment on fait?
Alors, quand on habite Paris, déjà, avec Paris Aquatique, on s'entraîne en bassin, comme n'importe quel nageur, sauf que les nageurs, donc les eaux libristes, nagent de très longues distances. Donc, en entraînement, ça peut aller entre 5 et 6 km par entraînement de 1h30 à 2h. Et ils sont assez spécialisés dans le crawl, donc ils font 5 à 6 km de crawl par entraînement. Et ensuite, les compétitions peuvent se faire hors de Paris.
Oui, ça, oui.
On a un lieu qui est quand même assez connu au sein des eaux libristes, qui est le plan d'eau de Jablines, à l'est de Paris. Et donc, il y a beaucoup de championnats qui se font, dont le championnat de France. Les eaux libristes, par exemple, ont terminé leur saison, il y a 10 jours tout juste. Et donc, on attend les résultats finaux de la saison d'eau libre, puisque bien sûr, il faut qu'ils nagent seulement dans la période estivale pour éviter de nager avec des petits icebergs dans les, dans les bassins.
Et la nage, ce que j'ai appelé la nage synchro, alors, où est-ce qu'ils pratiquent leur discipline? Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est une...
Alors, la natation artistique, puisqu'effectivement, elle a changé de nom.
Plus synchro. Hein. Nous, on est resté à l'époque de Muriel Hermine. Voilà.
Exactement. Mais la natation synchronisée est donc devenue la natation artistique. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je pense 2 ans à peu près, 3 ans peut-être. Donc, c'est quand même assez récent. Alors, à Paris Aquatique, on a une particularité en plus sur, pour le coup, la natation artistique, puisque Paris Aquatique, au-delà d'être un club parisien, est un club à l'origine qui était un club LGBT.
Oui.
Donc, on est sur un club qui prône l'inclusion totale, quelle que soit son origine. C'est important, effectivement, de le préciser.
Déjà,
parce que
c'est le but du sport.
Exactement.
Plus, voilà.
Et c'est encore plus le but de Paris Aquatique, bien effectivement, sûr. D'inclure toutes les populations et quelle que soit leur...
toute forme de discrimination.
Exactement. Et tout à fait. De fait, sur la natation artistique, on est un club qui propose aussi la natation artistique à des hommes. Et donc, on a des équipes mixtes en natation artistique, ce qui n'est pas forcément non plus le cas de tous les clubs.
Oui, parce que j'ai vu un reportage sur... il y a une équipe d'hommes qui s'est présentée à une compétition. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Voilà.
Alors, nous, on a effectivement des hommes qui se présentent à des compétitions. On a des équipes mixtes qui se présentent à des compétitions. On a des duos. Et on a cette particularité, du coup, d'offrir cette discipline. Où est-ce qu'ils s'entraînent? C'est toujours un peu la problématique, pour le coup, sur la natation artistique. Parce qu'au même titre que sur le water polo, malheureusement, ils ont besoin aussi de beaucoup d'espace pour pouvoir travailler leur balai. Donc, d'avoir des espaces, effectivement, avec de la grande profondeur. Parce que faire de la natation artistique quand vous avez pied, c'est pas évident. Enfin, il faut beaucoup travailler le rétro. Mais du coup, pour les porter, c'est un peu compliqué. Donc nous, effectivement, on les fait s'entraîner sur certaines piscines. On a des difficultés cette année parce qu'il y a des piscines en région parisienne qui ont fermé pour travaux et sur lesquelles on avait des créneaux de natation artistique qui ne sont pas forcément reconduits.
Et là, ça ne va pas être problématique. Là. On ne va pas vous fermer des piscines avec les réductions d'eau.
Par rapport aux réductions d'eau, a priori, la mairie de Paris a pris la décision de ne pas fermer les bassins. En termes d'économie d'énergie, puisque chacun doit faire aussi l'effort au quotidien et dans n'importe quelle des disciplines, à défaut de fermer les bassins, ils vont diminuer la température des bassins. Donc on a un petit peu plus froid, cache pas.
C'est encore
abordable. Et puis du coup, il faut nager un peu plus vite.
Voilà,
par rapport à cette restriction-là, non. En revanche, il y a effectivement beaucoup de travaux dans Paris et c'est compliqué quand vous avez une piscine qui ferme de récupérer l'équivalent d'un créneau. Et notamment, je pense à la piscine Valray qui est dans le...
Qui est bien connue, cette piscine.
Qui est extrêmement bien connue puisqu'elle avait été conçue pour les JO à l'époque, effectivement. Et aujourd'hui, elle est en travaux et c'est une piscine dans laquelle nous, on avait beaucoup d'entraînement de synchro. Et c'est compliqué de retrouver ces créneaux-là qui sont perdus pour 1 an, 2 ans ou suivant la durée des travaux.
Alors, du côté des libellules, alors Margot, même si elle est poloïste, hein, elle va nous décrire un peu quand même son club. Vous êtes combien, vous ? Est-ce que la rentrée s'est aussi bien effectuée dans le 10e à Paris ?
Bah oui, la rentrée s'est très bien passée également. Oui. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes questions logistiques que le Paris Aquatique. Enfin, on est moins nombreux et surtout, on touche à moins de sport.
Oui.
Donc, on a des équipes de... Donc on a 6 équipes de water polo.
6 équipes de water polo.
Tout à fait. Ouf. On a 2 équipes de loisirs.
On peut dire que vous êtes le club le plus important, je veux pas, de water polo, non ?
En effectif, je pense, probablement, à Paris.
Oui, peut-être, oui.
En water polo propre, oui, je pense, parce que le nombre d'équipes qu'a Libellule est quand même assez conséquent. Ouais. Puis surtout, eux, ils ont des jeunes.
Oui.
Tout à fait.
Et alors, justement, c'est la particularité. Donc, vous avez donc,
effectivement, on a 2 équipes de jeunes, équipes de jeunes, donc de 11 ans à 17 ans.
D'accord.
On a aussi 2 équipes masculines.
Oui. Un régional 1, un régional 2. Mmh. C'est un inscrit.
Alors, justement, c'est un sport qu'on peut pratiquer très jeune, le polo. C'est-à-dire qu'on a 5-6 ans, on peut déjà s'inscrire.
Oui.
Non, ça se fait. Il y a voilà.
Il faut d'abord apprendre à nager.
Oui, oui,
donc, il faut commencer par ça.
Oui, oui,
comme
sûr.
Pour apprendre à courir, il faut d'abord marcher.
Parce qu'on sait qu'il y a des sports où il faut attendre un certain âge, d'autres où on les prend très jeunes. Parce que à 6 ans, c'est peut-être pas toujours évident de pouvoir inculquer l'amour d'un sport à un jeune. Il faut le faire sous forme ludique.
Ben justement, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, c'est ça. Donc, bien sûr.
Et les 5-6 ans, donc, ils jouent entre eux. Ils ne vont jamais jouer contre des gamins de même 10-11 ans. La différence, l'écart, il est très grand quand on est jeune.
Ouais.
Mais c'est possible. Moi, par exemple, je commençais à 7 ans.
7 ans, oui.
Et on est avec les copains, c'est ludique, effectivement. Il y a un ballon, il faut tirer.
Il faut bien écouter quand même le
bien sûr,
l'entraîneur. C'est ça la difficulté des fois.
Hein. Ouais. Ouais.
Alors donc, Margot.
Bah, et plus donc ces équipes masculines donc
donc on a 2 équipes masculines on va dire notre top niveau masculin c'est R1 National 3 R1 on a une équipe féminine qui est jouée en élite
en national
pardon excusez-moi
qui a un bon niveau donc on est amené à faire des tournois un peu partout en France l'année dernière on a fini 7e du championnat là cette année on espère être dans les 3 premiers se passe très bien
on a 2 équipes loisirs aussi.
Alors vous connaissez naturellement je l'ai vu on en parlait en début de cette émission vous êtes rencontrés déjà
on a déjà
matchs,
joué l'une contre l'autre
qui a gagné
aléatoirement ça dépend des saisons en fait le water polo féminin est quelque chose qui est vraiment en devenir et qu'il faut continuer à soutenir et continuer à pousser parce que les clubs ont beaucoup de difficultés à fédérer des équipes féminines et à faire évoluer des équipes féminines.
C'est déjà le cas dans beaucoup de sports, mais alors j'imagine qu'au water polo, qui est un sport confidentiel,
est un sport confidentiel, mais en plus assez typé masculin finalement et ne serait-ce que.
Oui, mais après ils peuvent comme le foot féminin, comme dans les sports féminins, inculquer leur marque.
On est tout à fait d'accord.
Voilà.
Les équipes féminines sont quand même arrivées très très tardivement au JO par rapport à des équipes masculines. Non, ça n'aide pas.
On a souvent tendance à vouloir comparer, ce qui est une erreur dans beaucoup de sports. Ouais.
Effectivement, sachant que juste la première, ça c'est un petit fait divers, la première équipe, le premier sport d'équipe en JO, c'était le water polo.
Oui, c'était
dans l'histoire des JO.
Un sport ancestral, quoi, c'est ça.
C'est le premier sport d'équipe aux Jeux Olympiques. Du coup, le sport, effectivement, la compétition féminine pour le water polo est arrivée très, très tard.
96, je crois, extrêmement tardivement. Donc, nous, on a la chance de se connaître parce qu'à Paris Aquatique, il y a quelques années, on avait une équipe qui jouait en N1 et qui évoluait en N1 dans la même catégorie que Libellule. Les aléas ont fait que certaines joueuses ont décidé de partir sur d'autres clubs. Il y a d'ailleurs certaines.
Il y a des mercatos.
J'ai moi-même, du coup, des ex-coéquipières qui jouent aujourd'hui avec Margot. Et c'est très bien parce que c'est une équipe qui effectivement je pense a beaucoup de chance va beaucoup évoluer cette année. Nous on est de notre côté sur plutôt une équipe en reconstruction où on essaye de retrouver un effectif pour se remettre une équipe en régional et reprendre tranquillement les bases de ça et puis en témoignent les difficultés d'avoir des équipes féminines aujourd'hui même Libellule est en entente avec un autre club pour pouvoir fédérer une équipe et aujourd'hui on a beaucoup de difficultés à avoir des équipes parisiennes qui soient capables d'évoluer dans des compétitions nationales par manque d'effectifs et aussi certainement par manque de moyens et de subventions
parce
des mairies de Paris.
Il y a que le club-là à peu près qui a du water polo sur Paris. Non, il y en a d'autres quand même. Il y en a d'autres
Oui, il y en a d'autres. Nous, par exemple, enfin, pour parler vraiment de mon cas en tant que poloiste, au sein des équipes maîtres, on doit avoir une douzaine de...
Ah bon, ça va.
Sur Paris-Paris.
Sur Paris, un petit peu sur les environs, oui, parce qu'on avait Châtillon qui, malheureusement, désormais n'a plus de piscine jusqu'en 2027. Parce qu'ils désamiantent, ils démolissent et puis ils en reconstruisent
un
nouveau.
Ça doit être un problème. Quand ça
c'est un très gros problème pour eux. Et justement, ils essayent de trouver un moyen que ça aille un peu plus vite ou alors d'avoir des lieux qui soient plus adaptés pour continuer à s'entraîner. On a joué quelques fois contre Orsay, donc ce qui est quand même assez loin de la région parisienne, ce qui n'est pas non plus hyper compliqué pour y aller. Mais on peut avoir certaines ententes, certains clubs qui commencent à vouloir venir jouer avec Paris, qui peuvent être assez loin. On a failli avoir Lille-Adam, par exemple, ou Taverny, qui sont déjà assez loin.
Alors, effectivement, excusez-moi, il y a des équipes intramuros Paris, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4-5. Donc, nous deux. Montmartre.
Il y a Montmartre, il y a le Racing, il y a Libellule, il y a Paris Aquatique, il y a le CFP, il y a le CNP. Et le RCF, je l'ai cité, le Racing. Ouais. Donc on est
7 sur Paris. Après, effectivement, Île-de-France, il y en a plein. Oui. Et le niveau est le plus élevé. Par exemple, la meilleure équipe, c'est le Cercle de 93, donc Noisy-le-Sec.
D'accord.
Qui ont fait une entente avec Saint-Denis et qui jouent en élite. Donc l'année dernière, ils ont fini 3e du championnat, par exemple, ou 2e, je crois.
Voilà. D'accord. Et justement, vos pratiquants et pratiquantes, ils ne viennent pas que de Paris, ils viennent aussi des départements limitrophes.
Alors, nous, Libellule, on est un club assez diversifié, même d'un point de vue nationalité, on a plein de nationalités différentes.
Mais c'est bien. Vous voyez, voilà, c'est comme, pareil, hein, pas de discrimination, c'est de nationalité, pareil.
Et on vient un peu de partout. Et c'est ce qui nous, enfin c'est une de nos valeurs aussi, cette diversité, cette
C'est-à-dire quoi, il y a des Italiens, des Espagnols,
effectivement, des Espagnols, des Italiens, des Roumains, Tunisiens,
Anglais, Américains,
Américains, on a des Belges, Canadiens, on a tout.
Après, comme on disait tout à l'heure aussi, la particularité des Libellules, c'est qu'il y a des mineurs, enfin des jeunes qui jouent avec nous, donc là qui sont plus du quartier, donc 19e, voilà, Stalingrad, 11e, 10e. C'est aussi quelque chose qu'on a envie de promouvoir d'ailleurs.
Alors justement, vous êtes un club formateur, vous arrivez à garder vos jeunes, hommes et filles? Oui.
C'est le défi, on y arrive, surtout maintenant, donc post-Covid, on va dire. On a eu des difficultés même avant, COVID, avant la pandémie. On avait une piscine à Château-Landon, donc vraiment à Stalingrad, qui a fermé.
Pour cause de
un problème sur le plafond. Du coup, on a perdu pas mal d'adhérents, d'enfants du coin, du quartier. Et ensuite, il y a la pandémie qui nous a...
Alors, vous, est-ce que vous êtes aussi obligé de vous diversifier dans les différentes piscines, faire comme vos amis donc, de Paris 13?
On en a pas autant de piscines, quand même. Donc là, on ne joue pas dans la même ligue. Je crois qu'on a 5-6 piscines dans lesquelles on joue. On peut 18e, 19e, 20e.
Mais effectivement, on rencontre les mêmes problèmes de logistique qui sont que, même si on n'a que 5 ou 6 piscines avec qui on travaille, il faut avoir de l'espace pour jouer au waterpolo, de la profondeur du bassin, etc.
Parce que vous avez waterpolo, mais vous avez aussi une activité natation.
Tout à fait. Hein.
C'est un sport important aussi ou c'est le waterpolo qui l'emporte dans votre club?
Ça représente à peu près un quart des licenciés, la natation, donc c'est pas du tout négligeable. Il y a une équipe, il y a natation pour adultes et également pour enfants. Donc non, c'est aussi une part importante de l'activité du club.
Et après, il y a d'autres activités. Alors, pas de plongeon chez vous, je crois.
Non, pas de plongeon.
Mais par contre, peut-être la natation artistique, non?
Non, pas non plus.
Mais vous nous donnez des idées.
Voilà.
Pas trop vite. Ouais, c'est notre précaré.
Voilà.
On va pas prendre les mêmes adhérents quand même. On vise les séances de bébés nageurs, forme santé.
C'est loisir, mais c'est bien d'apprendre les jeunes à nager très tôt. Quel est le prix d'une licence et d'une cotisation dans votre club? Est-ce qu'il diffère en fonction du sport pratiqué?
Alors, en fonction plutôt de la fréquence des entraînements.
D'accord.
Mais ce qu'il y a, par exemple, nous, les filles en nation, qui évoluons en National 1, on a 3 entraînements par semaine. Donc, on a une licence autour de 320 euros, il me semble, là où
À l'année
à l'année. Donc voilà, pour quand même 5h30 d'entraînement par semaine, plus des compétitions, des tournois, enfin c'est tout à fait... Et les loisirs qui ont un à deux entraînements par semaine, le prix de la licence, il me semble que c'est autour de 170.
Et voilà, c'est licence Fédération Française de Natation.
Tout à fait.
Il n'y a pas d'autres affiliés à d'autres fédérations.
Non.
D'accord.
Fédération Française de Natation.
Ok. Et vous alors, donc au club de Paris 13
Donc Paris Aquatique, nous on est donc on a deux types d'adhésion, des adhésions en compétition. Donc pour tous ceux qui réellement veulent faire de la compétition et qui sont
quel que soit le sport.
Quel que soit le sport,
qu'on puisque du water polo, de la nage artistique, en eau vive, pareil.
Oui. En fait, c'est la FFN qui définit ce type de licence. Il existe deux types de licences, en compétition ou en natation pour tous, donc qui est plus pour du loisir, pour les gens qui ne désirent pas nécessairement faire de la compétition. Et donc, nous, on propose deux tarifs différents, compétition et natation pour tous, qui est de toute façon le même tarif qu'on fasse 1, 2, 3, 4 ou 5 sports, et peu importe le nombre de sections dans lesquelles on est, et peu importe le nombre d'entraînements qu'on fait. Donc, sachant qu'on peut avoir jusqu'à... On a 6 jours par semaine, de toute façon, des entraînements possibles. On peut aller jusqu'à 6 jours par semaine en entraînement. Après, il faut juste que le corps suive.
C'est combien le prix, alors ?
Alors, nous, en natation compétition, c'est 375.
Ouais, donc ça se voit à peu près.
Oui.
Hein,
et c'est 350 pour du loisir sur toute l'année, avec jusqu'à 6 entraînements par semaine.
Oui, parce qu'en plus, bon, vos sports, ça ne nécessite pas un gros équipement. Hein, ça, c'est au moins,
équipement personnel,
l'avantage.
Non.
Ouais,
bah, on va dire un maillot et puis un petit bonnet et des lunettes suffisent. Mais les gros équipements sont vraiment les équipements matériels dans lesquels on nage.
Et au-delà de... Parce qu'en termes d'équipement, effectivement, pour le nageur à proprement parler, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'équipement. En revanche, les clubs ont besoin de s'équiper. Notamment, alors, si on parle du waterpolo, on va parler de ballon. Mais si on parle de la natation artistique, on a aussi le besoin d'avoir les micros sous-marins, les casques éventuellement pour les entraînements. Donc il y a quand même un certain nombre de matériels qui est différent selon les sports, mais sur lesquels les clubs ont besoin d'investir pour proposer une qualité d'entraînement qui soit acceptable.
Alors, quand on commence dans un sport, la natation la natation artistique ou le plongeon, on est obligé de se spécialiser ou on peut changer en cours de route ?
Dans l'année ou de façon générale ?
Dans l'année, ça me paraît difficile, mais alors, de façon générale.
Oh, bah vous savez, dans l'année, nous, on a beaucoup d'adhérents qui potentiellement Alors, pas forcément changent, mais adhèrent à plusieurs sections différentes.
D'accord.
On a beaucoup de poloistes qui sont aussi des nageurs.
Oui, bon, à la rigueur.
On a des gens qui font et de la natation synchronisée et du plongeon. Donc,
ça peut aussi avoir des points communs. C'est plus compliqué de faire water polo et plongeon, peut-être. On
imagine. Disons que ce n'est pas le même effort.
Mais la même morphologie, on va en parler aussi.
Et d'un point de vue, après, effectivement, sur du plus long terme, c'est souvent, comme on le disait, des nageurs qui vont aller vers le polo plus facilement que des poloistes qui vont aller vers la natation.
Et vous, votre but, vous l'avez dit, c'est après donc 18 ans, mais c'est quoi ? C'est faire du sport pour le propre plaisir de la compétition ou simplement loisir ? Est-ce que vous êtes un club qui est aussi très tourné sur la compétition ?
Alors déjà, la base de Paris Aquatique, au moment de sa création, donc il y a 31 ans déjà, on commence à être vieux,
bien,
et puis il faut qu'on l'ait fait,
c'est 31 ans. 90, je crois, c'est ça.
Fin 90, on a été vraiment créé en 91.
D'accord.
Question de journal officiel en fin d'année. À la base, on était fait pour être un club déjà inclusif, donc LGBT, et le but était de faire du sport ensemble, pas nécessairement d'être compétitif, même si de toute façon on adore la compétition, quoi qu'on fasse. Mais donc on a de toute façon toujours 75% d'adhérents qui sont en compétition et qu'on invite à faire de la compétition au sein du bureau et du conseil d'administration. Donc on les incite à en faire le plus possible parce que ces compétitions permettent de rapporter tout de même, il faut l'avouer, quelques sous et aussi de subventions selon la participation qu'on a auprès de nos adhérents en compétition. Donc c'est pour ça qu'on les incite aussi à faire un peu de la compétition, mais c'est clairement aussi le but de chacun au sein de Paris Aquatique de faire de la compétition à la fin. Donc ceux qui veulent vraiment venir juste pour nager, pour reprendre la technique, réapprendre à nager et progresser, ils peuvent tout à fait le faire. On invite aussi tout de même à faire des compétitions pour se tester soi-même.
Bien sûr. Et vous êtes aussi un club caritatif. Vous participez à de nombreuses actions caritatives, humanitaires, on l'a dit. Vous êtes aussi un club LGBT.
Alors, tout à fait. On est aussi un club LGBT. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous demandiez par rapport à l'affiliation. Donc, on est effectivement affilié FFN. Et tous nos adhérents ont une licence de la Fédération française de natation. Mais on est aussi affilié à la FSGL.
Donc c'est le même prix. C'est une double licence. C'est le même prix.
Tout à fait. Ouais. Donc, il y a la Fédération sportive gay et lesbienne, sur laquelle on a aussi un engagement fort. Pour revenir juste sur la compétition, effectivement, s'il y a un aspect compétitif et un aspect non compétitif, il faut savoir que la natation est quand même divisée aussi en 4 niveaux différents, avec un niveau de A à D, avec un niveau A qui, pour le coup, lui, est très tourné compétition, participe aux interclubs et participe au rayonnement du club au niveau national. Après, oui, on a des engagements forts. Notre volonté, c'est de faire rayonner aussi la cause LGBT et de prôner complètement l'inclusion. Donc, ça fait partie de l'identité et de l'ADN réel de Paris Aquatique.
D'accord. Et vous êtes un club de résultats, beaucoup, beaucoup de résultats. Waterpolo,
nous, on est effectivement.
Natation, c'est la priorité.
Le waterpolo, c'est la priorité. Natation qui vient par la suite également. Après, notre but principal, c'est dans un premier temps d'éduquer.
Bien sûr, c'est le but du sport.
Éduquer, impliquer des valeurs comme le partage,
c'est
l'esprit d'équipe.
Voilà.
Après, la compétition, bien évidemment, elle est importante, d'autant plus qu'on a des résultats, on commence à en voir. L'année dernière, par exemple, au niveau masculin, on a gagné toutes les compétitions dans lesquelles on était engagé.
Ah bien.
Coupe de France, Coupe d'Île-de-France plutôt, Régional 1 et Régional 3. Et du coup, là, on s'investit beaucoup, un peu tous, donc que ce soit les enfants, les U et les adultes. On travaille ensemble, on fait des entraînements ensemble, des fois, et on tend vers des meilleurs niveaux. Quoi.
Et les jeunes qui sont dans vos clubs, d'une façon générale, ils restent ?
Oui.
Quel que soit le sport pratiqué.
Oui. Les jeunes restent plus que les adultes, finalement, parce que les adultes, comme Paris, c'est une ville, donc il y a beaucoup de turnover, cosmopolite. On essaie de les garder, et là, depuis 2-3 ans, on arrive à garder les adultes aussi, mais les jeunes, ils restent plus de temps, finalement, les jeunes qu'on a.
Et même question, on est obligé de se spécialiser très tôt, donc on fait la natation. Après, on peut devenir poloïste, on en parlait hors antenne. Oui. Bon, c'est plus compliqué si on se veut s'orienter après vers d'autres sports. Bon, on est obligé de quitter vos clubs, de toute façon, si on veut faire du plongeon ou de la natation.
Non, mais après, pour moi, je pense que c'est une question de... faut choisir... plus tôt on choisit, plus c'est facile. Donc effectivement, pour par exemple quelqu'un qui a 20 ans, un nageur de 20 ans, pour commencer le waterpolo, découvrir le waterpolo, ça va être un peu plus compliqué que pour un enfant de 6-7 ans par exemple, ou de 8 ans. On apprend plus vite quand on est
bien
jeune.
Bien sûr.
Mais ouais, c'est tout à fait possible. Là, on a dans l'équipe 1, on a 2-3 très bons nageurs, très très bons nageurs, qui jouent, donc qui ont développé des techniques, donc ça... C'est possible, mais c'est plus rare.
Bien sûr,
c'est plus rare, le changement.
La deuxième pause musicale, Stromae pour Invaincu. Et puis vous voyez, ça passe très vite, on est très bavard. Et ensuite, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le water polo. D'accord ? Allez, on y va.
Plus de victoires que de défaites. T'en as emporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre? Même pas en rêve. Espèce de petite putain. 3 balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la guerre, juste une barrette. Petit fantassin. Gauche, droite, droite, gauche. Front kick, balayette, des pénaltys. Pour 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sans toi c'est déjà ça de prix. Ouais, j'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire. Et du mal à le dire, mais m'affaiblit. Debout, jusqu'au dernier cri. Putain de maladie. Hey, oh yeah. tant que je suis en vie, je suis invaincu. Toujours invaincu.
Voilà, donc je l'ai dit, hein, cette émission elle sera en podcast. Hein, vous pourrez la réécouter sur vos réseaux sociaux, tout comme l'émission de la semaine dernière avec l'agent joueur Julien Girafi. Puis si vous avez encore du temps, vous n'hésitez pas, vous allez cliquer aussi sur les autres émissions qu'on vous a présentées depuis le début de saison et même depuis la saison dernière. Alors, vos clubs sont quand même créateurs d'emplois, pourvoyeurs d'emplois. Ça, c'est important. C'est une des filières les plus importantes pour l'emploi dans le sport à travers donc, les sports aquatiques.
Alors nous, par exemple, à Paris Aquatique, on a une quinzaine de salariés à peu près. Donc, c'est des salariés qui sont tous encadrants au sein des cinq différentes sections qui sont donc assez spécialisés et qui permettent vraiment de faire une bonne progression aussi bien en natation, water polo, au libre, synchro.
C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun et après on se spécialise au départ, non? Ça se passe comment pour ceux qui voudraient suivre cette formation, par exemple?
Alors déjà, le plus simple, c'est d'avoir les diplômes de surveillant, secouriste et entraîneur par la suite. Et la spécialisation se fait donc plus tard. Les diplômes permettent d'avoir déjà ces titres-là. Et par la suite, on peut se spécialiser dans certains sports, selon l'affinité qu'on en a. Certains types de sports qui sont proposés à Paris Aquatique sont beaucoup plus compliqués à acquérir, par exemple, au niveau des entraîneurs. On a énormément de mal à trouver des entraîneurs de waterpolo ou de natation synchronisée. Encore plus de plongeons, parce que c'est extrêmement compliqué. Déjà, il y a peu de plongeurs. C'est vraiment des sports de niche. Les sportifs professionnels qui voudraient devenir encadrants n'ont pas tellement non plus envie de passer des années à étudier pour devenir encadrant. Donc on a souvent des anciens sportifs de haut niveau qui viennent chez nous, comme par exemple en plongeon, on a sur nos 6 entraîneurs, je crois, de plongeon, on doit en avoir 5 qui sont des anciens professionnels qui entraînent chez nous en n'étant pas réellement entraîneurs, mais qui ont des très très bons conseils de toute façon et qui font qu'on a une équipe de plongeurs qui est très très bonne et qui voudrait participer par la suite au championnat du monde à Tokyo en août prochain.
Pareil pour les libellules, non? Vous êtes créateur d'emploi aussi, hein?
Tout à fait, oui. Nous ici, on a des entraîneurs salariés également et de la même manière que pour le Paris Aquatique, on a rencontré des difficultés pour recruter également. Comme tu le disais, effectivement, c'est un...
Pour le water polo, ouais, parce que ça doit être un peu plus facile pour la natation, quoi.
Oui. Hein? Effectivement. Mais
alors... on essaie de penser solution et on emploie la même voie de reconversion en quelque sorte des anciens sportifs. Ouais. Voilà, et on encourage.
Ils finissent par rendre au sport ce que le sport leur a apporté. Exactement. C'est un peu ça, quoi.
Oui. Et c'est vrai qu'on propose des formations justement pour essayer aussi. Enfin voilà, joueurs actuels des libellules, effectivement.
On leur propose des formations. Même d'arbitre. Pour les arbitrages, pareil. Il y a une pénurie même en France, même de façon générale, je crois que c'est pas un métier vers lequel on...
Oui, on le respecte, l'arbitre, au waterpolo, il n'y a pas beaucoup de contestations. On parlait du foot en première partie, bon voilà, on sait que c'est souvent un sport où on
le respecte plus, ouais. Ça arrive de temps en temps de critiquer, parce qu'on est tous humains, mais
la sanction est la même qu'au foot. Hein. C'est que quand on n'écoute pas l'arbitre,
c'est plus rapide qu'au foot même. Ouais. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat avec l'arbitre en waterpolo.
On va rentrer dans le cœur du waterpolo, mais avant, vous faites aussi des actions caritatives avec les libellules.
Alors, on participe à des formes d'associations, pas des actions caritatives.
Les écoles aériennes, par exemple, vous allez prôner votre savoir-faire au sein des écoles, ça arrive ?
Pas encore. Non, on a
les
pas...
jeunes, ils pourraient s'initier au water-polo.
Mais justement, on essaie de se faire promouvoir auprès des écoles avec des affiches. On a même des stands dans des formes d'associations.
On a l'été dernier organisé également un tournoi de beach water-polo qui était dans le canal de la Villette.
C'est bien.
Le week-end du 14 juillet. Donc, c'était aussi l'idée de montrer un peu ce qu'était le water-polo. Donc, les Parisiens, les passants, s'arrêtaient, regardaient les matchs.
Succès,
grand succès, effectivement. Le temps était avec nous également. Mm-hmm. Mais c'était
Alors, le water polo, parlons-en un peu en détail. C'est vrai que c'est un sport qu'on ne voit pas beaucoup. Vous l'avez dit, c'est le sport le plus ancien au niveau olympique par équipe. C'est un sport qui se joue à combien ?
Ça se joue à 7 contre 7.
Oui.
Donc, 6 joueurs et un gardien. Mm-hmm. Pour imaginer un peu plus simple, donc, c'est exactement le même positionnement un peu comme en handball.
Oui, c'est
donc on a deux ailiers, une pointe et un dernier.
Ouais. Alors, on se spécialise dans le poste où on peut être interchangeable.
En général, ceux qui jouent à gauche sont des droitiers, ceux qui jouent à droite c'est des gauchers.
Ah d'accord.
Les plus forts, les plus costauds, on va dire, jouent en pointe ou en défenseur pointe. Mm-hmm. C'est le centre et le défenseur centre. Mm-hmm. On reste jamais finalement, comme c'est assez actif, on a 30 secondes d'attaque. Donc c'est un peu comme au basket, je crois.
Ouais.
30 secondes d'attaque, on peut vite se retrouver dans d'autres positions.
D'accord. Ouais. Alors, ça dure combien de temps en match ?
4 fois 8 minutes.
4 fois 8, donc c'est intense.
Par contre, c'est du temps d'arrêt.
Oui, c'est des cartons comme le basket, quoi.
Oui. Avec des arrêts de jeu.
Donc finalement, le temps réel d'un quart, c'est du 15 minutes.
D'accord. Et les arrêts de jeu, on demande comme au basket ou il y a un temps imparti ? Il y a un coach qui demande aussi des temps morts ?
Il y a que le coach qui demande 2 fois par match. Donc, en général, une fois par mi-temps.
Ouais.
Voilà, 30 secondes, une minute, je crois, une minute de temps mort. Oui. Mm-hmm.
Donc, c'est un sport qui est intense. Hein. Oui. On parlait des gabarits, c'est vrai qu'on a cette image de poloïste assez.
On va dire un niveau, meilleur niveau. Poids moyen, je crois que ça tourne autour de 90-100 kilos pour 2 mètres de.
Faut être fatalement un très bon nageur. Avoir une pointe de vitesse en natation, c'est comme au foot, ça doit être hyper important.
Ouais.
Oui, mais bon, il n'y a pas que ça, il y a la technique aussi, il y a le reste.
Tout à fait. Et juste pour parler de la vitesse en pointe, je crois que les water poloistes sont plus rapides que les vrais nageurs
sur 15
mètres.
Ouais, ouais.
Voilà. Parce que en fait, c'est comme ça que ça débute en quart.
Oui, c'est un peu comme les cyclistes sur piste qui sont plus rapides que les sprinters sur le Tour de France. Quoi. Ouais.
Ouais. Mm-hmm.
Oui, ah bah si. Bah,
J'agrée simplement ce que vous disiez, c'est tout.
Non, mais c'est vrai. Alors, c'est un sport très physique, on peut le dire.
Oui, ça l'est.
Qui est devenu plus physique qu'avant ou il y a encore. Où ça a évolué ?
Plus physique qu'avant, je dirais pas.
Il y a des sports qui ont beaucoup évolué. Tous les sports physiquement ont évolué. On le voit pour le hand, pour le rugby. C'est des sports qui ont évolué beaucoup, quoi. Pas le water polo.
Le water polo a pas beaucoup évolué non plus depuis tant d'années. Il y a eu des nouveaux règlements qui sont arrivés. Un nouveau règlement international qui est sorti avec la FINA. Qui tendait à rendre un petit peu plus télévisuel et un peu plus.
C'est une question que j'allais poser. Comment le rendre télévisuel ? Parce que c'est vrai qu'on voit des poloïstes dans l'eau, ils se passent le ballon, avec des bonnets différents, c'est ça ?
C'est ça, bleu. Voilà. En général, donc l'équipe qui reçoit, les blancs.
Ouais.
C'est la couleur blanche pour ceux qui reçoivent et bleu pour les visiteurs.
Mais comment on peut voir les fautes ?
Alors, avec cette nouvelle règle s'applique vraiment aux compétitions internationales, les Jeux Olympiques, les champions, les Coupes du Monde. On a des caméras sous l'eau.
Sinon, à notre
niveau, on n'a pas de caméras sous l'eau.
Alors, comment ça se passe ? Parce que justement, on parlait de l'arbitrage assez controversé. Comment ça se passe pour un arbitre ? C'est encore plus dur qu'au foot, au hand ou sur le rugby, quoi.
Justement, il y a deux arbitres de chaque largeur.
Oui, comme le basket.
Exactement. Et ils peuvent voir uniquement ce qui se passe à la surface de l'eau. Et les intentions sous l'eau. Et ils peuvent deviner. Donc
les mauvais gestes, ils arrivent à tous les voir ?
En général, ils ont l'œil. Plus ou moins, ils peuvent se tromper de temps en temps, mais en général, les nouvelles règles, justement, comme disait Florian, donc l'attaquant, il est beaucoup plus avantagé avec ces nouvelles règles. Donc, par exemple, en tant qu'attaquant, dès qu'un défenseur te touche, c'est faute.
D'accord. Directement. Et par touche, je veux dire empêchement de jouer.
Par toucher, c'est quoi? C'est mettre la main sur l'épaule? Non, quand même pas. C'est un sport physique.
Si, par exemple.
Bon, ceinturé, je comprends. Ceinturé, je comprends.
Là. Voilà. Ouais. Si par exemple un attaquant a l'intention de jouer le ballon vers le but adverse et que le défenseur le pousse, effectivement, oui. Et par, soit pousser, soit mettre au fond, donc mettre la main sur l'épaule et le pousser vers la profondeur.
Parce que quand on joue le ballon, on saute, on va chercher le ballon. Donc
ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute. D'accord. Par exemple. Pareil, si on lui attrape, dès qu'on essaie d'attraper l'attaquant, donc de le tirer, de lui prendre la nuque, par exemple, ou, bien évidemment, après tous les points, donc c'est interdit, c'est faute même, oui, c'est faute plus grave. Mais il y a beaucoup de fautes en général, donc c'est pour ça que
c'est fatalement un sport de contact, un sport physique, donc fatalement le jeu amène faute, hein, fatalement.
Il faut pas non plus, donc faut pas laisser trop permissif non plus, parce que sinon ça peut très vite partir en.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des arbitres qu'on dit souvent au foot l'interprétation? Est-ce que il y a beaucoup d'interprétations aussi, ou est-ce que les fautes sont plus nettes et plus évidentes?
Il y a toujours interprétation, et c'est aussi pour ça qu'on a deux arbitres. Bah, en tant qu'arbitre en formation, grâce à la FFN, on a de toute façon toujours deux arbitres, un de chaque côté, qui peuvent voir de façon différente certaines fautes. Et bon, dans les hauts niveaux, les arbitres de toute façon discutent entre eux au travers de casques et au travers de moyens de communication
facile. Il y a pas encore la barre au niveau.
Justement, si
ça va
avec la caméra, avec la caméra sous l'eau, c'est ça la barre,
quoi. D'accord, oui. Ok.
Donc, et même de toute façon, on voit dans toutes les compétitions à haut niveau, ils sont tous filmés. On voit des très beaux ralentis avec les ballons qui tombent, qui rentrent dans les visages. C'est magnifique. Ça peut être très compliqué, oui, d'arbitrer à deux, mais de toute façon, ça évite des différences d'interprétation. Et effectivement, c'est vraiment long et fastidieux d'arriver à être un bon arbitre de bout en bout, puisque c'est déjà, les règles sont assez complexes, il y en a beaucoup et c'est assez complexe, mais en même temps c'est très formateur, parce que connaître vraiment bien les règles, ça permet de jouer encore mieux
et d'apprécier le sport vraiment. Oui, là, ça, par exemple, moi je suis souvent allé avec des amis voir des matchs et on n'arrive pas à bien comprendre le water polo si on n'a pas quelqu'un qui connaît déjà le sport.
C'est sûr, oui.
Et qui peut nous montrer.
C'est la difficulté de notre sport aussi, hein, c'est ça. Ouais.
Avec l'eau qui saute effectivement dans tous les sens, on ne comprend rien. Il y a juste les 12 joueurs qui nagent à gauche et à droite. Mais dès qu'on arrive à bien apprendre, distinguer un peu les règles, c'est un très beau sport.
Alors, il y a des remplacements temporaires.
Oui.
On peut.
Il y a 5 joueurs sur le banc.
Comme
joueurs.
Au hand, on peut gérer, ou le basket, on peut gérer.
À chaque arrêt de jeu. À chaque arrêt de jeu, on peut changer. Même là, depuis 2 ans, on peut changer un cours de jeu, mais il y a des règles, donc il ne faut pas sauter par n'importe où dans le bassin. Il y a un système de remplacement, donc les joueurs doivent se taper la main pour pouvoir entrer pendant le jeu, dans l'eau.
Alors, est-ce qu'on peut jouer, on parlait de foot en première partie d'émission, est-ce qu'on peut jouer le béton, est-ce qu'on peut jouer la défense? Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui sont portés vers ce système de jeu, ou est-ce que c'est plus difficile
de défendre en bloc, vous voulez dire?
Ouais, de faire un bloc défensif. Parce que il y a des sports comme le rugby, c'est pas possible. Le côté physique finit par l'emporter. Le foot, c'est possible.
Ouais. Non, au water polo, non. On peut pas se mettre tous dans les cages, dans le cage, mais
à un moment, ça finit par passer, quoi.
Ouais. Donc, et il y a une autre particularité, c'est qu'un attaquant, par exemple, dès qu'il y a un corner ou un poteau, le chrono il redémarre pour lui.
Alors, il y a des corners, justement. Il y a des corners. Ouais. Ouais,
le corner, c'est que.
Il y a une aire de jeu qui est délimitée par des plots.
Oui.
C'est une piscine normale?
C'est une piscine de 25 mètres. Ouais. Enfin, le terrain est de 25 mètres.
Oui, il faut le dire au grand public. Hein, c'est pour ça.
Ouais, en fait, le terrain officiel est de 25 mètres. C'est pour ça que parfois, vous avez, notamment à Paris, des bassins qui font 33 mètres de long. Parce que dans ce cas-là, on peut vraiment mettre un bassin sur un vrai 25 mètres et avoir le recul derrière pour la prison. Et après, vous avez.
Il y a la prison comme au hockey.
Oui, tout à fait. Effectivement.
Alors, c'est des expulsions temporaires de combien?
30 secondes. Donc 20 secondes.
20 secondes. Oh, bah ça va. Ouais.
Mais ça 20 va. Secondes, ça, quand vous avez une attaque qui n'en dure que 30, 20 secondes, c'est très très long.
Sachant que les 20 secondes, donc, l'équipe qui attaque est déjà positionnée, en général. Donc c'est 20 secondes, des vraies 20 secondes. Alors qu'une attaque de 30 secondes, il faut arriver en attaque. Donc il faut nager pour arriver en attaque. Ça prend déjà 10 secondes pour arriver de l'autre côté.
Voilà. Bon, il y a beaucoup d'expulsions. On en parlait avec Margot. Là, il y a beaucoup d'expulsions, Margot. Il paraît que c'est sévère. Hein, oui. ça y va. Hein.
Ça, bon, enfin voilà, il y a des fautes.
L'expulsion, c'est quoi? C'est la grosse faute?
Non,
quoi,
ça peut être.
On s'en prend à l'arbitre.
Non, dès qu'on s'attaque à l'arbitre, ça peut être déjà une expulsion, ou alors ça peut être sorti pendant 4 minutes, voire carrément une expulsion définitive du jeu.
Et même du bassin, enfin une sortie de la piscine, etc.
Mais les expulsions, oui, les expulsions en tant que joueur, ça nous arrive très souvent. Je sais qu'en match, ne jouant pas très très gentiment tout le temps, ça peut arriver jusqu'à 3 expulsions. Et dès qu'on a 3 expulsions en tant que joueur, on n'a plus le droit de rentrer en fait. On reste sur le banc, on est obligé d'enlever son bonnet et on ne peut plus rentrer du tout.
Donc c'est comme le jaune au foot, 3 expulsions. Donc 3 jaunes amènent un rouge.
Et donc vous, ces 3 jaunes, d'accord. J'imagine que, allez, on se prend au jeu, à la compétition. On écoute facilement son entraîneur, on n'engueule pas trop ses coéquipiers.
Alors déjà, il faut beaucoup crier en tant qu'entraîneur, parce que l'entraîneur crie beaucoup, entraîneurs crient beaucoup, les sifflets des arbitres, et après, même dans l'eau, on hurle tout le temps pour s'appeler, pour se dire quoi faire. Donc c'est assez assourdissant quand même.
C'est pas que les entraîneurs sont... Enfin, juste pour préciser, c'est pas que les entraîneurs sont particulièrement sévères, c'est parce que on est assourdis, on a la tête dans l'eau.
Bien sûr. Et puis, il y a un public quand même au waterpolo. Donc il doit aussi y avoir... Il est comment le public ?
Il peut être péchu. Il y a certains moments où
il est passionné, donc fatalement il fait du bruit, il encourage son équipe.
Et souvent c'est donc les équipes qui reçoivent qui ont le plus de public, puisque ils reçoivent, donc ils sont chez eux, et le public peut devenir assez vindicatif, surtout contre l'arbitre qui est justement très proche d'eux, parce qu'il faut savoir que la table qui récupère donc toutes les informations et qui note toutes les informations sur une feuille de match est à l'opposé du public, puisque le public est normalement toujours que d'un côté.
Il vaut mieux quand même.
Mais le problème, c'est que les arbitres sont des deux côtés. Donc l'arbitre, à chaque carton, se retrouve obligatoirement à côté de...
L'arbitre du côté spectateur, ça doit pas être...
C'est pas toujours très sympathique et il arrive des situations où le public peut devenir un petit peu méchant.
Est-ce que vous avez des jeunes qui sont justement, ou moins jeunes même, intéressés par l'arbitrage ?
Oui.
Il y a eu les journées de l'arbitre il n'y a pas longtemps, là, dans les sports collectifs.
Nous, on a une joueuse et un joueur qui sont depuis l'année dernière, ils ont fait leur formation et là ils arbitrent même au niveau national. Et là, je crois que tous les ans, Margot, toi aussi, je crois que tu vas faire une...
Oui, tout à fait. Enfin, à la Libellule, je suis au conseil d'administration j'organise les formations. Effectivement, et ça intéresse les jeunes.
Bon, bah, tant mieux. Et chez les femmes, est-ce qu'il y a la même dimension physique entre vous quand vous êtes dans la compétition ? Parce qu'on disait, sport féminin, on compare souvent un peu trop au sport masculin. Il faut aussi qu'il ait sa propre particularité, quoi.
Alors, au waterpolo, il a sa propre particularité. Oui. Le waterpolo féminin et le waterpolo masculin, ont les mêmes règles et les mêmes sanctions en cas de faute. Oui. Après, le waterpolo féminin est un peu différent. Alors déjà, je pense que la puissance n'est pas la même, la vitesse n'est pas la même.
Chacun a sa propre particularité. Quoi.
Donc c'est vrai que souvent... Mais c'est un peu la même chose qu'on retrouve au foot, finalement. Oui, c'est-à-dire que, pour le coup, sur le waterpolo féminin, potentiellement, vous allez avoir aussi plus de... entre guillemets, de construction de jeu que de contre-attaque pure, parce qu'il va falloir avoir potentiellement plus de temps pour ramener la balle. Donc, on va faire plus des relais parce qu'on peut se fatiguer plus vite. Après, d'agressivité et de...
Ça doit pas être facile, les filles, des fois.
Et c'est pas forcément moins agressif et moins accrocheur.
Non, mais
Qui plus est, on a des maillots de bain qui nous laissent un peu plus de prise que sur d'autres que les hommes. Donc non, effectivement, c'est pas forcément... On joue avec des maillots...
On peut pas jouer avec deux pièces.
Non, on joue avec des maillots une pièce et des maillots une pièce qui sont complètement fermés par fermeture éclair dans le dos, qui ne laissent pas finalement la possibilité, ne serait-ce que d'attraper des bretelles, évidemment. Donc non, c'est pas moins physique que le waterpolo masculin. C'est peut-être plus posé parfois dans les phases d'attaque, le temps de remonter, mais parfois peut-être un petit peu plus fourbe.
D'accord. Margot, vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait. Ouais. on a joué quelques matchs contre Paris Aquatique. Non, je plaisante, mais c'est pas le moment. Mais c'est sûr que de la même manière que, c'est physique, il y a du contact.
Est-ce que le matériel a beaucoup changé ? Le matériel, c'est le ballon. Est-ce que ça a beaucoup changé ?
Dans le temps, je crois que c'est
la chose. Comme dans tous les sports.
Le ballon, il a un peu évolué. On joue avec du ballon de taille 5, les hommes, taille 4, les femmes.
Tout à fait.
Les enfants, taille 3, jusqu'à un certain âge. Sinon, il n'y a rien. Le maillot de bain, il est différent, que ce soit maillot de bain femme ou homme.
C'est pas le même maillot de bain que qu'un maillot de bain habituel qu'on trouve en natation, par exemple.
Ah,
il
d'accord.
Il est doublé.
Oui, parce que c'est pareil, ça peut tirer aussi.
Exactement. Donc, il y a des marques un peu particulières qu'on trouve qu'un dans Waterpolo.
D'accord.
De maillot de bain, justement.
Ça, c'est intéressant parce que s'il y a des gens qui veulent faire ce sport, ils ne peuvent pas aller dans n'importe quel magasin de sport.
Tout à fait, ouais.
Bon, après, quand ils débutent, en règle générale, on est assez gentil avec eux, on ne leur tire pas tout de suite sur le maillot. Ils peuvent venir avec un maillot traditionnel. Mais à plus ou moins haut niveau, effectivement, il faut avoir un équipement qui est un peu plus robuste.
Voilà, puis ils se font tirer le maillot de bain une fois et la semaine d'après, ils viennent avec un maillot de bain de waterpolo en général.
Alors justement, on parlait du côté peu médiatisé de votre sport. Hein. On disait qu'on le voit très peu à la télé. La difficulté, c'est de le rendre télégénique, ce sport. C'est ça, sa grande difficulté. On disait qu'effectivement, on a du mal quand on est spectateur à tout voir, à tout comprendre. Et moi, ce qui me sidère, c'est comment les arbitres arrivent à tout voir, quoi.
C'est là ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, le fait sur les compétitions internationales, déjà, de rajouter la vidéo et de voir ce qui se passe sous l'eau et dans les bassins, ça aide énormément. Néanmoins, je pense qu'il y a une pédagogie à faire aussi sur les règles du waterpolo. Parce que comme on le disait, en fait, il y a beaucoup de règles au waterpolo. Il y a les 30 secondes, les 20 secondes. Il peut y avoir des 2 mètres, il peut y avoir des corners, il peut y avoir des hors-jeux. Donc, il y a vraiment...
Il y a le hors-jeu. 2 mètres, c'est le hors-jeu.
Voilà, les pauvres arbitres amateurs.
Donc,
foutre les compétitions. Non, mais
ça normalement, ouais, donc, tout à l'heure, on posait la question sur la délimitation du bassin. On a plusieurs plots au bord de bassin.
Oui, mais c'est par rapport au dernier défenseur, je suppose. Donc,
Non.
Ah bon.
C'est vraiment le positionnement du joueur, de l'attaquant.
Oui, c'est ça.
C'est pas par rapport au défenseur.
D'accord, ok. Parce que. Voilà, ouais.
En tant qu'arbitre en cours de formation aussi.
Ah d'accord, vous êtes comme, aussi tourné vers l'arbitrage.
Oui,
bien, c'est
à Paris Aquatique, on a eu une très grosse promotion qui a eu lieu l'an dernier. Donc on devait être 14 ou 15, je crois, à avoir commencé la formation d'arbitre. Et on est encore une bonne promotion qui essaye de se maintenir comme ça. Mais oui, c'est très compliqué en tant que spectateur de comprendre, parce que le bassin est bleu, il y a des remous partout, et puis la seule chose qu'on voit, c'est...
C'est deux équipes avec des bonnets
différents. Un bonnet noir, un bonnet blanc, et puis on voit les petits bonnets rouges sur les côtés pour les gardiens, et on voit un petit machin jaune qui court en fait de tous les côtés. C'est juste la balle, donc c'est assez peu visuel, c'est assez compliqué à voir, ça vole de tous les côtés. Après, en tant qu'arbitre, on est aussi beaucoup plus près, on est juste au bord du bassin, on voit les choses. C'est vrai qu'on ne voit pas sous.
Fatalement, vous avez des...
Non.
Alors, il n'y a pas de petites lunettes de bain
Alors, il ne faut surtout pas avoir de lunettes en tant que poloiste dans l'eau.
Parfois,
C'est gênant, sauf qu'il arrive que... Ah, et c'est ce qu'on apprend de toute façon à toute personne qui commence à faire du waterpolo, c'est qu'en ayant des lunettes, en se prenant un ballon dans les yeux, les yeux peuvent finir par ressortir.
Ça paraît incroyable.
Donc on évite de porter des lunettes. Sauf des gens qui sont extrêmement myopes. Et là, on a certains types de lunettes, mais qui sont extrêmement anecdotiques. J'ai dû en voir une fois depuis 20 ans.
Un peu comme Edgar David en foot, je crois.
Et un ballon, il va à combien?
Vitesse?
Une frappe, un tir?
Alors là, je ne sais pas vous dire, mais
ça fait mal.
Ça peut aller très vite.
Ça fait mal quand ça arrive dans la tête.
Il pèse 500-600 grammes.
Ouais.
Et il peut faire très très mal.
On en parlait tout à l'heure. Le meilleur club français, c'est Marseille.
Le cercle des nageurs de Marseille, effectivement.
À Paris, vous avez vos clubs, mais est-ce que on rêve d'avoir un club
Donc déjà à Paris, on a le cercle 93, qui est un des meilleurs clubs en France niveau masculin. Et en Ile-de-France, on a aussi le Racing qui joue en National 1, donc le niveau juste en dessous de l'élite. L'élite, c'est le meilleur. Et voilà, on espère effectivement dans quelques années.
Une carrière, elle dure combien de temps? Est-ce qu'on peut jouer au polo jusqu'à 40 ans, par exemple?
Si on est vraiment très très bon, maximum 40 ans, mais très très bon.
Oui, très très bon. Ouais. Bah, ça fait comme dans tous les sports courts. En général, la moyenne, c'est 35-36 ans. On peut durer jusqu'à là-bas.
Même un peu plus, par exemple. Un peu plus que le foot.
Un gardien, peut-être,
enfin, très bon niveau. On peut jouer jusqu'à 36 ans. Mais après, à partir de 40 ans, on commence vraiment à baisser un peu le rythme.
Mais je pense qu'une particularité aussi du water polo pour un sport collectif, c'est que c'est un sport de contact, bien sûr. On peut se faire mal, on se prend des ballons sur la tête, mais c'est pas un sport qui est dur pour le corps. Enfin, c'est aussi de la natation. Enfin, on est dans l'eau.
Quand même. C'est une question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a beaucoup de blessures malgré tout? Est-ce qu'on peut se blesser?
Il y en a. Enfin,
Ah oui.
Bah, alors des blessures, il peut y en avoir.
On va dire. Peut y avoir comme blessures.
Bah des classiques, des tendinites. Ouais.
Des tendinites.
Ah bah des tendinites de l'épaule, beaucoup.
Ah oui, à force.
Donc
coude d'épaule.
Coude d'épaule, donc c'est. Mais en revanche, c'est vrai que difficilement se faire un croisé au water polo. On n'a pas les appuis.
On peut se casser le nez, par contre. Donc
à des arcades, des nez, ça il y a
des dents.
Ah ouais, 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 ouais.
Donc. Donc oui, oui, non, non, oui, il y a des blessures, mais effectivement, comme disait Margot, c'est pas un sport d'appui au sol. Donc même du coup, en étant potentiellement un peu en surpoids, ou
y a pas d'impact,
voilà, il y a pas d'impact.
Comme le rugby, le hand où on peut se taper.
Donc il va y avoir des impacts, on va dire physiques entre nous, mais il y a pas d'impact au sol qui sont vraiment mauvais pour les articulations à proprement parler.
D'accord. Alors, naturellement, on compte beaucoup sur Paris 2024. Hein, on en parle beaucoup. Hein, on est régulièrement sur toutes les grandes manifestations, nous, qui concernent les Jeux. Ça va être une fête immense. Je suppose que quand on fait du water polo et aussi d'autres disciplines comme les vôtres, on attend beaucoup de ces Jeux de 2024.
Bah, on attend beaucoup de ces Jeux 2024 parce qu'on attend, mais je pense que c'est valable pour tous les sports, oui, et pas seulement pour les sports aquatiques, une médiatisation.
Oui, voilà.
Et encore plus
pour des sports comme les vôtres, quoi.
Bah, encore plus parce que, alors, même si la natation, pour le coup, est déjà très médiatisée, il y a très souvent les compétitions de natation qui sont retransmises à la télévision. Oui. En revanche, c'est vrai que le water
polo... Grâce à l'équipe de France qu'il y a eu, grâce aux bons résultats, puis là, on a une équipe de France qui est en train de se reconstruire. En plus,
exactement, hein, et je pense qu'il y a effectivement un attrait pour voir sur la natation le renouvellement de cette génération qui a été une génération dorée. On essaye de voir un peu quels sont les nageurs qui vont pouvoir reprendre le lead. Et puis, sur le water polo, la vérité, c'est qu'on avait des équipes nationales qui n'étaient pas forcément jusqu'à présent très présentes sur les compétitions de haut niveau, qui sont en train de très bien performer ces dernières années. L'équipe de France masculine a fait quand même de très bons résultats, la féminine aussi. On aura la chance qu'elle soit présente au JO de Paris 2024 et on espère vraiment...
Comme on a dit Radou, il y aura peut-être une bonne surprise.
Je pense que l'équipe masculine de water polo fera des très bons résultats, en tout cas des résultats qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent. Et on espère que ça donnera plus de visibilité à ce sport-là et aussi bien à la synchro.
Et même les autres comme la synchro.
Exactement.
Et le plongeon aussi, hein, parce que c'est des sports, on n'a pas eu trop de médailles jusqu'à présent. Et puis, on le sait que fatalement, des médailles, ça attire des pratiquants et pratiquantes. Ça, c'est fatal.
Hein. Et bien, on espère que ça fera des vocations, effectivement. Généralement, les années de JO sont toujours pourvoyeuses l'année suivante et pour les saisons suivantes d'adhérents qui cherchent à s'affilier aux fédérations. Donc, je pense et on espère, en tout cas, que ça sera aussi le cas pour les JO de 2024, qui plus est à domicile.
Ouais, c'est la même attente pour vous ?
Tout à fait. Ouais.
Aux libellules ?
Tout à fait. Et même avant d'attendre les Jeux olympiques, tout à l'heure, on parlait du fait que le sport, c'est pas le sport le plus médiatisé, le plus commun au monde même. Je pense que si, par exemple, on diffuserait tout simplement plus souvent le sport à la télé,
parler plus. Il faut payer pour certaines chaînes, quoi. Voilà, c'est ça.
Mais encore.
Sur les chaînes grand public, non, mais sur des chaînes payantes, peut-être que.
Non, même pas au water polo, pas sur des chaînes payantes. Donc, après, il y a vraiment des sites spécialisés. Par exemple, le site de la FINA, il diffuse, par exemple, en streaming live les compétitions européennes, comme la Champions League, les Coupes du Monde, l'Euro, les Euros. Mais il faut payer justement pour les sites.
C'est
finalement très peu promu. Ouais, on ne se donne pas les moyens non plus.
Donc vous attendez beaucoup de ces jeux. Puis bon, sur le plan de natation, ça, on peut estimer des bons résultats. Comme...
Voilà, le water polo, effectivement, il y a une très bonne génération qui arrive, qui est déjà en place. Et là, par exemple, en dernier exploit, la France, je crois qu'elle finit 6e ou 7e aux Euros. Cet été, ils ont battu la Serbie qui était championne olympique.
Oui, c'est ça, c'est la Serbie. J'allais dire, quels sont les pays qui dominent ce sport sur le plan mondial?
La Serbie, Croatie, un peu de l'Ouest, Europe de l'Ouest, Italie et Espagne. Les Grecs sont très bons.
Ah, les Grecs,
Voilà, c'est un peu ça. Les États-Unis, ils sont très bons aussi.
Oui, alors, on peut vivre de ces sports dans certains pays. Aux États-Unis, par exemple, où je sais que c'est un petit peu plus facile de vivre du sport, on peut le faire homme-femme.
Femme un peu moins, malheureusement. Oui. Homme, on peut, mais je crois que dans un salaire dans un pays comme la Hongrie, par exemple, ou la Serbie, où c'est vraiment un sport national, le water polo.
Ah oui.
Oui, on peut on peut vivre, on peut avoir un salaire d'environ, je sais pas, 4000 euros.
Oui,
quand 5000 euros, meilleur du monde.
Oui, 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 c'est ça. Il peut y avoir quand même des partenaires publicitaires aussi qui viennent oui, ça, vous aider. Ça, c'est important.
Ouais, ouais. Ça, c'est donc,
et puis un statut qui fatalement devient différent.
Ouais.
Très bien, bah écoutez, merci en tout cas. On va donc rappeler que on peut encore vous rejoindre. C'est trop tard, c'est pas trop tard. On peut aller s'inscrire encore.
C'est pas trop tard. Vous pouvez encore vous inscrire au Libellule.
Oui, comment on fait? Comment on fait?
On va sur notre site.
Oui,
www.libellule-de-paris.net.
D'accord.
Sur notre page Facebook, Instagram, même sur LinkedIn.
Oui.
Effectivement, on le trouve assez rapidement. On a changé de look il y a pas longtemps. Donc on a un nouveau logo depuis 2 ans.
Une identité visuelle. Effectivement.
Voilà. Ouais, on a un community manager. On est assez présent. On essaie d'être de plus en plus présent sur les réseaux.
Hein, c'est important. Hein.
Voilà. Ouais. Et donc effectivement, on peut nous rejoindre à tout moment, surtout en tant qu'adhérent, mais aussi en tant que sponsor.
Oui.
Donc c'est quelque chose dont on a vraiment besoin.
Et puis en tant que bénévole aussi. Vous
effectivement.
Avez...
Oui. Non, on est tous un peu bénévoles au sein du club. Oui. Le conseil d'administration et les bénévoles également, mais on se fait aider aussi par des gens qui sont dans nos équipes. Donc,
d'accord.
Pour ça, on n'a pas vraiment de système en place, autre que la reconnaissance amicale. Et,
très bien. Voilà. Eh ben, allez rejoindre donc, le club des Libellules et puis allez rejoindre le Paris Aquatique aussi. On peut aussi vous rejoindre, c'est pas trop tard.
Oui, non, c'est pas
vous
trop
aussi,
tard.
Aussi, et de quelle façon?
C'est pas trop tard du tout. Il y a un site internet pour le coup qui est aussi extrêmement bien fait, sur lequel on retrouve toutes les propositions de créneaux d'entraînement et toutes les propositions d'adhésion. On a des adhésions qui sont ouvertes tout au long de l'année et on est là pour accueillir. On peut nous envoyer des mails, on peut nous contacter directement via la page de Paris Aquatique et on se fera un plaisir de répondre à tous ces gens et de les accueillir si ils sont majeurs.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas donc à Florian, à Virginie, à Radou et puis à Margot. Hein. Bon retour dans les bassins.
Ah, merci.
Ça recommence dès demain?
Ça recommence dès demain, tout à fait.
Voilà, d'accord, très bien. Merci à Jason d'avoir été une nouvelle fois aux manettes ce soir. N'oubliez pas donc nos différentes émissions sur les différents réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va finir avec l'EFA Metaverse. Bonne soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine. Et vive le sport. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Plaisir. Merci, au revoir.
Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voiler la face, mais ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, métalès. Et tu te noies dans la paresse. Fin des temps, nouveaux signes apparaissent. Le ciel est noir, à quoi s'attendre en cadaverse? La vie te consomme, c'est pas l'inverse. Mon cœur est noir, pas lavé. Noir et dur, comme si j'aimais pas la vie. Ça me parle politique, je fais comme si j'avais pas d'avis. Et je marche tout seul comme si j'avais pas d'amis. Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voiler la face, mais ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, métalès. Et tu veux pas voir la vérité. Peut-être que les catastrophes naturelles sont méritées. De quoi nos gosses vont hériter. Si la terre meurt, qui va dire RIP? Pourquoi y'a des hommes au-dessus des lois? Puis quand encore je devrais leur dire excusez-moi. Y'a ceux qui se croient encore au temps des colonies. Traînez-les sur la place publique, qu'on les nique. Je me demande si j'ai le droit de dire ça, polémique. Y'en a qui disent bien pire, comme Eric. Je ferai pas de communiqué, je suis pas désolé. Loin de tout ça, je les vois en dézoomé. Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voler la face, mais ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur kleps, métalès. Le ciel est noir, métaverse. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voiler la face, mais ça reste la même merde, toi. Tu deviens leur clé.